Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 13h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut. Bonjour à tous et bienvenue sur le 99e Weekly News, dernier numéro avant le grand live, le 100e. Nous sommes le lundi 7 juillet 2014 et il est exactement 20h. Nous enregistrons à 20h l'heure... J'ai pas de rime. Ce soir au programme, déjà je vais peut-être commencer par présenter qui est avec moi ce soir. Putain, je suis perdu. Avec moi ce soir pour vous parler de toutes les dernières infos comics, ciné et TV, Bruno.
Oui, salut à toutes et à tous.
Et l'homme pressé, Mister René Benny.
Salut à toutes et tous, vite. Je disais, de toute façon, t'en as même pas fait 100, donc c'est normal que tu te plantes, quoi. Enfin voilà, on n'est même pas à la première centaine. On peut pas voir tout bon non plus.
Ouais, je laisserai peut-être tous les plantages, hein, histoire de montrer que
Surtout quand t'as même pas aidé en plus, hein, pour te trouver une rime en heure, il y en a plein, il y a beurre, il y a plein de trucs.
Bon, heure, c'est... 20h l'heure du beurre, ouais, c'est moyen quand même. Bref, ce soir nous allons parler bien sûr de ciné, de TV et de comics.
Beurre.
Avec et de beurre, oui, bien sûr, de beurre déchiré, comme bien connu, avec notamment des annonces concernant les franchises Marvel et DC au ciné, des résultats pour Transformers, mais aussi au niveau de la télé, beaucoup d'annonces concernant l'univers DC qui bouge pas mal. Et enfin, dans la partie comics, les dernières brèves, on pensait que ce serait calme avant la Comic-Con, et bien finalement, les éditeurs ont décidé de nous lâcher pas mal d'infos. Ils savent peut-être aujourd'hui que la Comic-Con est plus trustée par les gens de l'entertainment pur que du comics. On en reparle dans quelques minutes, mais pour l'heure, on va démarrer avec le traditionnel What's Up. Et je me suis pas présenté, mais c'est pas grave, tout le monde sait qui je suis. Je suis Dieu. Le mec, c'est la folie des grandeurs, c'est le 99e, c'est la fête.
Ah, c'est bon, ouais.
Le mec, il trash. Ah non, je vais pas les leur faire un petit truc simple comme ça quand ils pourront boire, puisque rappelez-vous, c'est le jeu à boire. Dès que je dis ça trash, vous buvez un coup. C'est très très mal parti cette émission. Franchement, je l'avoue, c'est n'importe quoi.
Je plains ceux qui l'écouteraient pour la première fois. Hein. Si on leur dit écoutez Comic City, c'est génial, ils vont pas trop comprendre.
Ah oui, non, rassurez-vous, d'habitude c'est pire que ça. On démarre avec le WhatsApp, vos dernières geekeries. Bruno, tu vas commencer.
Oui, alors côté ciné, je suis allé voir Dragon 2, qui est vraiment très sympa.
C'est quoi, c'est la suite de Dragon avec Bruce Lee, non?
Non, c'est la suite de How to Train Your Dragon.
Ah.
C'est un film de DreamWorks. Assez épique, un petit peu d'humour mais pas trop, de bons effets spéciaux, des dragons super cool et puis
tout cela qui est vraiment trop spéciaux, mignon. Mais...
Oui, c'est de la 3D, voilà. Un bon moment au cinéma qui peut plaire
avec des dragons
et aux petits
qui font du breakdance.
Par rapport au premier.
Pourquoi
je dis n'importe
mieux.
Quoi, je sais pas.
D'accord,
ce que
oui, ça change.
ça trash. Buvez un coup.
Je l'ai trouvé mieux que le premier, qui était déjà quand même très bon. Donc voilà, une bonne surprise, je le conseille. C'est un bail.
Ouais, ok, carrément. Autre chose peut-être, Bruno.
La première saison d'American Horror Story, une série dont on m'avait beaucoup parlé, j'avais jamais regardé. Et voilà, donc j'ai dévoré ça, j'ai trouvé ça très sympathique.
C'était la fameuse série dont tu nous parlais la dernière fois, que tu disais t'avais pas encore vu, mais que tu gardais la surprise.
Non, je ne crois pas, mais c'est peut-être ça.
Non.
C'était peut-être
en mode Ghost Biatch.
En mode Paris Hilton.
Par la maman.
Non. non, mais en tout cas, j'ai
Bruno,
regardé...
Bruno, le Kim Kardashian du comics, quoi.
Exactement. Mais non, American Horror Story, très sympa. Une histoire, je m'attendais à ce que ce soit plus horrifique en fait. Le premier épisode était un petit peu stressant, mais finalement après ça part un petit peu dans le grand guignol, mais ce qui est important, c'est le casting. Le casting est vraiment très bon.
Mais la saison 1 c'est vraiment du pipi de chat comparé à la seconde qui est pour moi un chef-d'œuvre. Mais bon, il y en a qui ont préféré la saison 1, bizarrement, donc je te laisse découvrir la saison 2.
J'avais acheté les deux saisons justement grâce à une offre, donc je commencerai la 2 bientôt. Donc peut-être que j'aurai un peu plus peur alors.
Ah,
la deux est très bonne, hein, ouais.
Très très trash aussi, par contre. Là ça trash, mais ça trash vraiment.
C'est glauque au possible, quoi.
C'est vraiment trash.
Ah ouais, ouais. Ouais,
mais c'est
franchement,
pas forcément que visuellement, c'est surtout très mental, quoi.
D'accord.
Écoute, okay. Ma mère a
l'air pas mal.
Ma mère a maté la première, elle a arrêté au deuxième épisode de la seconde. Elle pouvait pas. C'est la première fois qu'elle arrête une série télé.
D'accord. Tellement elle c'était. A pas pu supporter.
Ouais, voilà, exactement. Donc, comme quoi, c'est vraiment, c'est trash. Oh, c'est trash.
Il y a des gens qui sont déjà bourrés là.
Il y a des gens qui quoi?
Qui doivent être déjà bourrés là, je pense, vu le nombre de fois où on a dit trash.
Ah, moi, je l'ai dit qu'une fois.
Ouais, mais bon, il faut boire quand c'est nous qui le disons, non?
Ah, bah si vous voulez, mais alors à ce moment-là, je vous garantis pas l'état. Je suis pas sûr que vous écoutez le podcast en une fois. Benny, on va passer à toi pour le What's Up, tes dernières geekeries.
Alors, j'ai terminé la saison 2 de House of Cards. Une série pour moi qui avait des hauts et des bas, c'est-à-dire que ça pourrait être
pour
vachement
une série politique,
bien.
C'est pas mal qu'il y ait des bas.
C'est bien.
Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Mais justement, ça aurait pu être vachement
bruitage
bien.
Bruitage à la bouche.
On n'a pas encore touché l'argent de Tipeee, c'est pour ça.
Voilà, ça aurait pu être vachement bien, si ce n'est qu'il y a quand même quelques petites facilités scénaristiques par moment. C'est-à-dire que forcément, tout va dans le sens du personnage principal à un moment ou un autre. Un peu facilement parfois, parce que bah tout simplement faut que l'histoire avance, sinon il serait coincé. Et il emploie souvent la technique du je te dis que j'aimerais faire tel truc pour que tu me dises le contraire, ne le fais pas. Et du coup
oui,
je fais exactement.
La psychologie inversée, quoi.
Voilà, exactement, ouais. La psychologie inversée. Il l'emploie vachement souvent et forcément ça marche à chaque fois. Et il y a jamais un moment où le mec lui dit vas-y oui fais ça. Et c'est un peu dommage parce que finalement tu te dis bon voilà ça marche à tous les coups et si ça marchait pas effectivement il serait coincé, l'histoire serait foutue, enfin ça s'arrêterait là. Et il y a quand même quelques grosses facilités par rapport aussi à ce qui se passe tout au début de la saison 2, il y a un gros truc qui se passe que je peux évidemment pas révéler et il y a quand même quelques petits problèmes scénaristiques là-dessus qui m'ont fait un peu tiquer mais bon je peux rien révéler sinon je spoil. Et sinon, j'ai commencé True Detective. J'ai juste regardé le premier épisode. Donc il y en a que 8, hein. Il y a juste une saison. Et ça a l'air très très bon. Très très bonne série. De HBO. Ça a l'air d'être vraiment très bon. Et j'en reparle dès que j'aurai regardé la suite.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Mais bon, ça t'a plu en tout cas.
Oui. Franchement, c'est deux flics qui ont enquêté sur un truc, un meurtre un peu bizarre en 95, et qui sont interrogés de nos jours. Et voilà. Et c'est joué l'un des deux est joué par. Je vais pas retrouver son nom. Donc ça
Woody
sert à
Harrelson,
rien.
Woody Harrelson.
Et oui, c'est
et,
ça. Ouais.
Matthew McConaughey.
Voilà. Ah. Donc deux très bons acteurs et franchement le duo fonctionne quoi. Dès les premières secondes.
C'est sur ma watching list.
Voilà.
Je sais plus qui en avait parlé de cette série en disant qu'elle était excellente, mais
Et moi non plus. Et c'est marrant parce que j'ai eu l'impression que l'un de vous en avait parlé, donc c'est pas vous deux, je sais plus, quelqu'un sur Comic City peut-être.
Je me demande si c'est pas Sam qui nous en avait parlé.
Ah peut-être. Mais en tout cas voilà, très 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 prenant, très bien fait. On a vraiment l'impression maintenant d'être en phase de film pour ces deux séries télé.
Très vite, moi, un petit WhatsApp. C'est vrai qu'en ce moment, je n'en fais pas beaucoup. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai très peu de temps à consacrer à autre chose que soit les podcasts, soit le boulot, soit la vie normale, genre dormir, manger, pisser et chier. C'est pour rester dans le ton. Hein. C'est vrai qu'on peut pas être au four, au moulin, en la boulangerie, en train de vendre les pains et dans le cul de la crémière.
Ou dans la poissonnerie, puisque tu restes dans le ton.
Oh là, c'est hardcore.
Oui, c'est un peu hardcore, oui. Pour marquer que je trompe la boulangère puisque je dis dans le cul de la crémière évidemment.
Ouais, et puis tu vas chez la poissonnière visiblement.
Ouais, mais écoute, il faut toucher. Il faut être polyvalent dans la vie, il faut toucher à tout. C'est la foire au moule effectivement. J'ai réussi à terminer ce week-end la saison 4.
Qu'on était
vulgaire. Oui, mais de toute façon, tant les gens nous connaissent aujourd'hui. Et si vous nous connaissez pas, bienvenue. Bienvenue à vous. Bienvenue dans cette charmante émission où nous parlons d'actualité gore. La quatrième saison de Louis, cette série que j'affectionne tout particulièrement, jouée et réalisée par Louis C.K., qui est un comédien de stand-up américain. Et cette quatrième saison s'était fait pas mal attendre, puisqu'il y avait eu un an de break entre la saison 3 et la saison 4, et j'ai enfin pu la terminer. Bon, la saison s'est terminée aux États-Unis le 16 juin, donc j'ai juste 3 semaines de retard, mais voilà, une saison avec pas mal d'arcs, ce qui change de d'habitude. On a beaucoup d'épisodes, on a on va dire trois gros arcs dans la série. Les trois premiers épisodes sont indépendants et puis ensuite on a un arc qui s'appelle Elevator qui dure 6 parties, un arc qui s'appelle Pamela qui dure 3 parties et In the Woods qui est en 2 parties. In the Woods est d'ailleurs très très bon. C'est un arc sur la jeunesse de Kevin Smith. Alors bien sûr, toujours tout est toujours très romancé, mais sa jeunesse où il s'est mis au pétard puisqu'il trouve sa gamine de 12 ans en train de fumer un pétard et ça lui rappelle tout ça. Et un arc avec un acteur guest qui est Jeremy Renner, qui est très très bon dans un espèce de rôle de vendeur de drogue complètement taré dans les années 70. C'est vraiment bien foutu, mais c'est pas une série qui pourrait s'adresser à tout le monde. Autant les premières saisons étaient très drôles, très comiques, très acerbes, là on est plus dans l'expérimental et on sent que le mec se fait plaisir en rendant hommage à pas mal de choses. C'est voilà, si on aime la série depuis la saison 1, on aimera cette saison 4, mais ne commencez pas par cette saison 4, vous aurez pas forcément la bonne image de la série. Voilà. Mais en tout cas, une série que j'ai adorée, une saison que j'ai adorée aussi, et j'espère qu'il y aura une saison 5. Pas de nouvelles en tout cas pour le moment que j'ai pu croiser par-ci par-là.
Et un WhatsApp express de Fuchs qui nous dit que l'un de ses clients nous écoute, voilà, qui lui a commandé des comics et qu'il les a commandés grâce à nos conseils.
Grâce à notre bon voilà. De commande voilà, qui ça, est exactement. Sur notre site.
non mais voilà, grâce à nos conseils. Donc il se reconnaîtra ce client, je ne sais pas.
Un gros coucou à Fuchs en tout cas.
Voilà, et aux gens du Nord puisque c'est quelqu'un du Nord de la France. Ouais. Donc on est écouté dans le Nord, voilà.
On pense à vous.
J'aime bien parce que Bruno, tu dis ça comme si c'était dramatique. Tu sais, on pense à vous. On sait que c'est difficile
après
de vivre dans le Nord.
Tu sais, on pense à vous.
On pense vraiment à vous. Hein, on pense vraiment à vous. De Bordeaux, là, on se dit, ils ont vraiment pas de chance.
Allez, on va démarrer l'actualité de la semaine avec la partie Screen News, évidemment, la partie où on parle de cinéma, de TV et de jeux vidéo. Pas de jeux vidéo cette semaine. Donc déjà, pour ceux qui n'aiment pas ça, bah, ça vous fait quelque chose en moins que vous aimez pas. Et si vous aimez pas le reste de l'émission, bah, qu'est-ce que vous foutez encore là?
Et par contre, si vous aimez les jeux vidéo, bah, quelle déception.
Quelle déception, mais on aura le temps d'en reparler peut-être cet été durant les spéciaux que nous ferons. On vous reparlera tout ça lors du live de vendredi, évidemment. On commence avec la partie ciné. Bryan Singer, toujours attaché au projet X-Men, notamment ce fameux X-Men First Class numéro 3, X-Men Apocalypse, hein, c'est son sous-titre. Et il a posté sur Instagram une photo du script.
Ouais, tout à fait. Voilà, donc c'est un petit teaser qui nous annonce comment on va peut-être commencer le film avec une séquence qui se passe en Égypte où on voit directement le vilain plus les quatre cavaliers d'Apocalypse. Donc voilà, juste quelques petits mots qu'on peut voir sur cette image mais qui déjà nous donne un petit peu le ton. Voilà, pour l'instant il est encore attaché au projet. S'il n'y a pas de poursuite judiciaire et qu'il peut quand même tourner le film, de toute façon, il le fera, hein, il a le soutien de la production. Mais dans le cas où il est un peu trop mêlé à des problèmes de justice, ils trouveront quelqu'un d'autre pour faire le film, parce qu'ils pourront pas laisser ça en suspens, quoi.
Bon, ils appelleront Brett Ratner, je pense.
J'espère pas.
Oui, ok, cette vanne n'était pas drôle, j'avoue.
En tout cas, c'est un début qui rappelle le début de la momie.
on verra The Rock.
Non, pitié, dans le premier, il était pas là. Il était pas, heureusement d'ailleurs. C'était vraiment le seul qui était vraiment bon.
Le premier?
Bon, voilà, je vous ai tous tués. Ah oui, je trouve que... Ah,
oui, il était pas mal, le premier.
Ouais, le premier était bon. Moi, je l'avais vu plusieurs fois.
Même le film, le roi scorpion. Mal, hein.
Le spin-off, le roi scorpion, c'est, je pense, le meilleur de la franchise.
Ouais.
C'était tellement le meilleur de la franchise que d'ailleurs, il n'y a plus de franchise après, quoi.
Si, il y a eu un troisième. Des... Je sais plus, c'était en Chine, au Japon, je ne sais plus.
Ah, il était sorti après?
Ah oui. Ah oui, il est sorti il y a pas si longtemps, 2008 par là.
Ah ouais.
Et ouais.
Bon.
Ouais, bon, bah...
Bah tant pis.
Bah. Sur cette belle note d'espoir.
Non mais c'est con parce que c'était vraiment une bonne franchise, bonne surprise de la fin des années 90, quoi, ce film.
Oui, bah c'était une bonne franchise, un bon renouvellement des histoires type Indiana Jones, mais on en avait d'autres. Hein. On avait Benjamin Gates qui se fait totalement oublier depuis quelques temps, je ne sais pas pourquoi.
Ah oui, c'est vrai.
Benjamin Gates était vraiment sympathique avec un Nicolas Cage qui était plutôt bon.
C'est la photo aux Illuminati.
He got the bloody map! Je me rappelle
je sais pas, voilà, on a des franchises comme ça qui pourtant marchent et disparaissent alors que qu'on pourrait avoir quelque chose, quoi.
Bon, alors qu'Avengers, ça va continuer.
Mais pour terminer, je voulais terminer en fait, mais c'était une belle transition. Hein. Je te propose de me la refaire après ma phrase. On a la franchise de Librarians, je crois, ça s'appelle. C'était une série de téléfilm qui était avec ça y est, son nom m'échappe, le mec qui jouait dans Urgence et qui joue actuellement dans la série Falling Skies, qui faisait le docteur.
Noah Wyle.
Oui, Noah Wyle, voilà, c'est ça, qui était une franchise de téléfilm. Eh bien la série va être prise en série même. Donc, comme quoi, les trucs type Indiana Jones peuvent continuer, mais c'est assez rare. Et là, je te propose de me refaire la transition.
Mais par contre, des films qui vont continuer, c'est la franchise Avengers.
Exactement, Bruno. Quelle superbe transition qu'on n'avait pas du tout vu venir. Ça trash, buvez un coup. C'est parce que je pense qu'ils sont desséchés depuis le temps. Avec Andy Serkis qui pourrait être de retour dans Avengers et Joe Fultron Avengers 2.
Alors, qu'est-ce qu'il faisait Andy Serkis avant ?
Il faisait Gollum.
Ah oui,
ouais, mais c'est
oui,
pas de retour dans Avengers, mais en tout cas,
ouais, c'est pour ça que j'avais pas compris qu'est-ce qu'il faisait au fait dans la franchise. Donc c'est ce serait la première fois qu'on le voit.
C'est l'expert de tout ce qui est motion capture, puisqu'on a pu le voir effectivement dans Gollum. Il a fait Godzilla, il a fait les singes de la planète des singes, là, le dernier là qui est sorti.
Non, de celui de Tim Burton.
Non, pas celui de Tim Burton, le plus récent.
Celui.
Oui, je sais, ouais, je m'en doute. Bah oui, le Rise,
préféré.
Le Rise.
Voilà.
Oui, le Rise of the Apes, of the fucking Apes.
Voilà.
Et c'est Planet of the Apes, ouais.
Donc voilà, donc ouais. Il est vraiment spécialisé là-dedans. Il a même été dans des jeux vidéo. Il a fait du motion capture. Et on sait que le méchant ce sera Ultron, donc il sera probablement représenté avec des effets numériques. Peut-être que c'est Ultron hein, qui va tout simplement interpréter.
En tout cas, on sait qu'il travaille de façon assez proche avec Mark Ruffalo, donc l'interprète de Hulk. Serait-ce pour doubler Hulk ou pas ?
Ouais, ça m'étonnerait qu'il fasse Hulk parce que Ruffalo, c'est vraiment modélisé par rapport à son visage. Donc,
mais après, c'est peut-être pour les mouvements de corps.
Ouais, peut-être, effectivement. Alors là, c'est vraiment un consultant de visage, Hulk, quoi, si c'est juste pour ça.
Le visage resterait celui de Ruffalo, mais le corps serait, en tout cas, les mouvements seraient gérés par Andy Serkis, ou peut-être, comme tu l'as dit, Ultron, ou peut-être complètement autre chose d'ailleurs.
Ouais, peut-être autre chose.
Et justement, Mark Ruffalo, qui a parlé un petit peu de Avengers 2, et justement, c'est là qu'on se pose la question concernant le rôle d'Andy Serkis, puisque Hulk serait peut-être que très très peu présent dans le film Avengers 2. Si quelqu'un veut prendre la suite.
Ouais, alors très près. Enfin, je pense qu'il sera quand même au centre un petit peu de l'action, mais il y a déjà des rumeurs un peu qui tendent à nous proposer que la suite se passerait dans l'espace avec peut-être une sorte d'adaptation entre guillemets de Planète Hulk, puisqu'il y a des. Alors là, c'est un peu spoiler, hein, puisque c'est vraiment des trucs qui ont filtré, que Banner se retrouverait piégé dans un vaisseau spatial à la fin du film. Et du coup, se retrouver comme ça dans l'espace. Ce serait pas à cause de sa violence ou autre chose, ce serait peut-être à cause d'Ultron ou d'autre chose. Donc, est-ce qu'on lui prépare une porte d'entrée pour un prochain film ? Je ne sais pas, mais... Ou alors c'est peut-être du vent, mais...
Ouais,
on sait que Ruffalo sera quand même là pour Avengers 2, il y a déjà des scènes qui ont été tournées avec lui. Je pense qu'il va être important quand même dans Avengers 2.
Il sera peut-être moins important en termes de Hulk, mais plus important en termes de Banner.
Peut-être, ouais. Bah oui, bah pour ses connaissances techniques vis-à-vis d'un, bah voilà, d'un Ultron, ça peut être intéressant.
Benny, une réaction ?
Oui, non, je pense que ce qu'il voulait dire peut-être par là, c'est que effectivement, ce serait pas lui qui interpréterait Hulk, quoi. Peut-être qu'on aura Andy Serkis pour ce qui est motion capture de Hulk et Mark Ruffalo sera juste Bruce Banner à partir de maintenant. Je ne sais pas.
On va continuer sur les franchises Marvel avec Marvel qui fait une promo virale pour Guardians of the Galaxy avec une idée plutôt maligne, des voyages organisés hein, comme qu'on en trouve partout, hein, notamment chez Leclerc par exemple.
Placement produit.
Pourquoi tu nous dis ça, Steve ? C'est bizarre.
Je ne bosse pas chez Leclerc pourtant. Je le précise, hein, je ne fais pas de promo. Mais là, ils ont lancé un site d'agence de voyages qui serait des voyages galactiques. En lien donc avec Guardians of the Galaxy, puisque les premiers visuels que l'on a, les premières destinations, proposent Xandar, la planète de Nova notamment, ou Morag, ou encore, c'est la planète que l'on voit où on voit Star-Lord hein, dans le trailer,
ouais.
ou encore la tête d'un Celestial mort, hein, comme dans le run de d'Anne Abnett et Andy Lanning.
On prend les paris marrant. pour dire que il y aura bientôt des procès pour pub mensongère aux États-Unis pour ça.
Ah bah pas forcément, je veux dire ils proposent pas forcément un prix, enfin voilà, c'est vraiment juste un c'est de la promo virale comme il y avait eu.
Ah,
avec,
moi je m'en fous, moi je veux y aller hein.
Bah, rappelle-toi par exemple pour X-Men Days of the Future Past numéro 2.
Oui, bien sûr.
On avait eu de la
oui.
promo virale comme ça aussi avec des faux sites.
Ah mais c'était des vrais sites, vous êtes fous, attends, ça va à trop arriver.
Ouais, c'est amusant, puis c'est l'occasion de revoir de nouvelles images du film, hein, des images inédites, donc c'est rigolo. Donc ça s'appelle Galaxy Getaways.
Ouais, et puis on peut même explorer avec Street View hein, les planètes, hein. Donc avec le truc de Google hein, qui permet de vérifier quand on se balade dans une ville. Enfin, c'est vraiment plutôt sympa, quoi. C'est vraiment bien fait. J'ai été voir le truc, il y a des sons d'ambiance, tout. Bon petit site, quoi.
Mais ouais, non, mais franchement, il y a de l'imagination. C'est original. C'est original pour promouvoir un film. Donc, bah voilà, bonne initiative, bonne idée.
On passe à DC maintenant avec un premier visuel de Superman en costume. Et vraisemblablement, on pourrait penser qu'il est à Gotham.
Bah oui, il pleut, il fait noir. C'est triste, donc ça doit être Gotham.
Non, il y a ça Paris, peut être aussi Pôle emploi, mais...
Non, mais ça peut être Paris aussi. Hein.
Ça peut être Paris. Un costume qui a très peu changé par rapport au premier film. Il y a quelques petits détails un petit peu différents, comme par exemple au niveau de la ceinture. Mais sinon, ça reste globalement le même que dans Man of Steel. Voilà. Donc, ils continuent de faire leur promotion avec ces images un petit peu sombres, un petit peu dépressives. Voilà.
Bah, c'est Batman, quoi.
Bah, c'est Superman, mais c'est dans l'univers de Batman, quoi. Donc, voilà.
Bon, petite photo, voilà.
Peut-être qu'il va battre oui. Superman en le rendant dépressif, justement.
Tiens, prends ton super Xanax.
C'est ça. Non, mais un visuel sympathique, quoi.
On continue avec une petite news concernant G.I. Joe numéro 3.
Ah, alors, G.I. Joe numéro 3, alors c'est quand même une franchise G.I. Joe assez étonnante, puisque elle est pas si mauvaise, moi, je trouve.
Oh,
le premier film était assez sympathique. Le
premier film était marrant. On est d'accord. Bah, le deuxième c'était quand même une grosse daube.
Et donc ils ont quand même prévu de faire un troisième film, donc qui se centrerait sur le personnage de Roadblock qui est joué par The Rock.
Ouais. Tu peux l'appeler Dwayne Johnson, hein, c'est son vrai nom.
Et donc voilà pour une sortie en 2016. Voilà.
Alors on sait que le réalisateur John M. Chu, qui était le réalisateur attaché au projet, finalement ne l'est plus puisqu'il est en train de faire Jem et les hologrammes. Sérieux, bonjour le choix de carrière quoi, le mec ouais. au G.I. Joe 3 et Jem et les hologrammes quoi.
Et bientôt ce sera ouais. les mini-pouces.
Oh la version live,
quand est-ce qu'ils vont adapter BCDG.
T'as le petit monde des Borrowers hein, qui pourrait se rapprocher des mini-pouces, mais bon.
Oui,
le
oui,
film
oui,
est
oui.
sympathique.
Ouais. Mmh. Bon, mais les mini-pouces c'était pas si mal.
Oui, à notre époque, aujourd'hui, ça a sacrément vieilli, déjà en termes d'animation.
Hé, hey, oncle Charlie.
Pas mal.
Ah, j'y étais, là, je voyais le casque d'aviateur, ouais, je voyais
moi
tout.
Moi aussi, c'est ça, voilà.
On sait en tout cas qu'ils ont engagé un scénariste pour le film, il s'agit de Jonathan Lemkin, qui a été le scénariste de Devil Advocate. Ça me dit rien. Et du film de 2007 qui s'appelait Shooter.
Bah, ouais. Moi quand je pense à Shooter, ouais. je te vois Steve, mais après ça.
C'est-à-dire quoi? C'est que je suis un alcoolique ou que je tire sur les gens? Je sais plus maintenant.
Oh, ça veut peut-être dire autre chose aussi.
Ah, mais je veux pas savoir en fait.
Voilà.
Continuons avec d'autres petites news et petites brèves ciné. Un nouveau rôle, enfin en tout cas un nouveau personnage au casting de Ant-Man. Il s'agit de David Dastmalchian.
Ouais. C'est un acteur qu'on connaît pas trop. Il a joué, je crois, un petit rôle dans The Dark Knight.
Ouais, l'un des clowns.
Ouais.
Super. Hey, franchement.
On ne sait pas ce qu'il fait.
On connaît même pas sa tête, puisque je vous rappelle que les clowns étaient tous masqués.
Si, je viens de le googliser. Je reconnais sa tête.
Tu l'as déjà croisé. Très bien.
C'est n'importe quoi. On termine notre partie de Screen News ciné avec le box-office Transformers pour le Transformers numéro 4 qui a rapporté mondialement 575 millions de dollars.
Ah ouais, bah ouais, c'est alors, impressionnant, hein. Gros succès.
Bah, gros succès, moins que le 3 pour le moment, puisque le 3 a quand même fini sa carrière mondiale à plus d'un milliard de dollars. Ah, ça me fout la boule, ça, quand même. Hein.
Ouais, mais il y a quand même pas mal de pays où le film n'est pas encore sorti, hein, comme en France, par exemple. Après, c'est pas la France qui va ramener les 400 milliards, 400 millions qui manquent, mais...
400 milliards, allons-y.
Allez, allez. Faisons. On va même demander à la BNP de payer le reste, si jamais.
Non, mais on n'a qu'à faire de Transformers Age of Extinction le film le plus rentable de tous les temps. Allons-y. Hein.
C'est ça.
Le cinéma est pas assez désespérant aujourd'hui.
Après, milliards, c'est...
Non, mais sérieusement. C'est même plus un film, c'est une religion, tu sais. C'est...
Toi aussi, il paraît qu'il les
Dinobots. Il paraît qu'il est un peu d'obesque en plus, parce que les premières critiques sont assez assassines.
Bah, c'est un relaunch, de toute façon, de la franchise, concrètement. Puisqu'ils ont changé le casting, ils ont quand même changé pas mal de choses.
Aurait pu s'attendre à mieux, quoi, du coup.
On aurait pu s'attendre à bien, je ne sais pas.
ça reste du même niveau que les précédents, voire même peut-être un des plus mauvais. Donc, on saura ça bientôt, puisqu'il sort en France cette semaine.
En tout cas, donc sur ces 575 millions, il y en a quand même 400 millions qui ont été faits à l'étranger. Donc le film n'a rapporté que 175 millions de dollars aux États-Unis.
Je crois qu'il a fait un carton au Japon, dans les pays asiatiques.
Ah, c'est les dinosaures.
Ils aiment bien. Ouais,
c'est les robots.
Les grands trucs, quoi. Les... Voilà. Allez comprendre pourquoi ils. Voilà, c'est pas bien ce que je dis.
Non, pas de racisme, monsieur, pas de racisme.
Non, mais j'ai rien dit.
Après.
J'ai rien dit.
Des problèmes.
J'ai rien dit. Tu assumes simplement que.
Oui, voilà, mais la façon dont tu t'arrêtes. Continuons avec Star Wars 7 pour terminer cette partie cinéma. Star Wars 7 qui annonce deux nouveaux membres au casting.
Oui, il s'agit de Crystal Clark et de Pip Anderson.
J'étais sûr qu'il y en ait un qui rigolerait.
Ah bah oui. Et tout à l'heure, il y a du Jim Zub, donc on continue.
Donc voilà, un petit peu comme pour la news précédente avec l'acteur qui jouait le clown dans The Dark Knight, des acteurs que je ne connais pas. Voilà,
d'ailleurs, je crois que c'est les deux autres, hein, c'était le clown 2 et clown 3 en fait.
Ils m'ont l'air fort sympathiques, mais on ne sait pas trop quel rôle ils vont jouer. Et, voilà, c'est des newcomers. Et voilà, et c'est associé aussi à une autre news qui nous annonce qu'il va y avoir un petit hiatus de 2 semaines là pour le tournage. Qui fera suite sans doute au problème de santé qu'a eu Harrison Ford puisqu'il s'est
il s'est blessé la jambe,
cassé la jambe ou un truc comme ça, cassé la cheville.
Il a mangé un cassoulet.
Ça prend un petit peu de retard, voilà.
Et ouais, apparemment il s'est fait blesser par la porte du Falcon Millennium.
Ouais. Life is a bitch.
Le mec, la porte s'est refermée sur sa jambe, quoi. Sérieux.
C'est vrai que c'est con, quand même.
Même le vaisseau l'aime pas, quoi.
Non, on va pas se moquer.
C'est vrai que c'est con. Hein.
Justement, on parle du Falcon Millennium. Kevin Smith était au festival du film de Neuchâtel, le festival international du film de Neuchâtel, pour une.
C'est où?
C'est en Suisse.
D'accord.
Et il a fait une session de questions-réponses pendant une heure avec les gens qui étaient présents. Et il a parlé de Star Wars 7 puisqu'il s'est rendu sur le lieu du tournage, invité par J.J. Abrams avec qui il est plutôt pote. Et Kevin Smith, on le sait, c'est un gros fan de la franchise Star Wars. Entre autres,
et du coup, il a tout lâché, quoi. C'est-à-dire que
c'est dégueulasse, il en a mis partout. Il en a mis partout.
Sur le déjà, Falcon.
Tu vois, c'est un shooter lui aussi.
Bon, toute sa conférence est visible. Hein. De toute façon, la conférence a été captée, elle est complètement visible par tout le monde. Vous pouvez la regarder. Uniquement pour les gens qui parlent anglais, hein, parce que tout est en anglais. Donc pas de sous-titres, hein, démerdez-vous. D'ailleurs, il a commencé, puisqu'on parlait d'en mettre partout, il a commencé sa conférence en disant que vu que ça s'appelait Masterclass, mais que c'en était pas vraiment un, que de toute façon, il trouvait pas qu'il était vraiment un master à part un masturbate. Voilà.
Ça, c'est ce que j'allais dire.
Mais sa conférence est excellente. Hein, je veux dire, le mec est très très fort, comme d'habitude, pour parler.
Exactement.
Et donc, quand il parle de Star Wars 7, il a expliqué qu'il s'est rendu sur le tournage et qu'il a vu les choses. Et en tant que gros fan de la franchise Star Wars, la première trilogie, hein, que la deuxième trilogie, la précédente, mais filmée après, vous connaissez Star Wars, je ne vais pas vous refaire l'historique, il avait détesté, etc. Et il y a Wiki pour ça. Et du coup, il a dit qu'il avait pleuré comme un gosse, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose de super bien fait.
Parce que lui aussi, il s'est pris la porte du Faucon Millenium sur la jambe.
C'est ça.
Et ça faisait mal.
Il a pu voir le Faucon Millenium, ouais. Il a pu voir pas mal de choses, et que surtout, c'est pas que du CGI. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont tournées.
Il a pu toucher des trucs. Ouais. C'est ça qui lui a plu, c'est que voilà, il n'y a pas des fonds verts partout ou des fonds oranges.
Il a pu toucher Jabba, c'est pas du CGI. Voilà.
En tout cas, venant de la part d'un mec comme Kevin Smith, qui est pas forcément le mec le plus corporate du monde, c'est, je trouve, assez rassurant que le mec soit vraiment enthousiaste à ce point sur cette nouvelle trilogie.
Ouais, c'est de la com, hein, mais.
Ouais, je sais pas si c'est que de la com. Je sais pas. Je pense que le mec est assez honnête pour dire s'il avait. Je pense que s'il en aurait pas parlé s'il avait vraiment pas aimé. Bon, enfin bon. Après, entre ce qu'on pense et la réalité, hein, on n'est pas derrière les contrats qui sont signés, évidemment. Voilà. Donc, si vous aviez des doutes, comme moi, avec J.J. Abrams, ça peut être rassurant. On va passer à notre partie télé maintenant et on commence avec un gros roman bien connu, American Gods, écrit par Neil Gaiman. Un roman qui a gagné de nombreux prix, hein, comme le Bram Stoker Award, l'Hugo Award, le Nebula Award. Vraiment un roman primé qui va être adapté. Alors, il devait être adapté sur HBO, finalement, le projet est tombé dans les limbes. Finalement, il va arriver sur Stars.
Ouais, c'est un gros roman, c'est une belle histoire. Et
voilà, putain, c'est une romance. Non, Bruno, non.
D'aujourd'hui. ça mérite
Celle-ci. Il l'a préparée, celle-ci, je le sens.
Ah, c'est une adaptation à la télé.
Il trépignait sur son siège. Il a même dit à Mike Trainer, attention, j'ai sorti un truc.
C'est toute la mythologie autour des mythes et des mythes modernes, voilà, qui va être réinventée à la télévision.
Une mythologie qui a beaucoup de trous, d'ailleurs.
Exactement, à cause des mythes.
Putain, attention, faut fort dans la vanne.
Faut expliquer aussi, parce que sinon on risquerait de pas comprendre.
Donc, ce sera sur la chaîne Stars, que je ne connais pas. Donc,
J'aime bien parce que, au fait, Bruno, j'ai remarqué que quand il sortait, tu sais, une mauvaise vanne comme ça, après, il essayait de se rattraper en faisant la news, tu sais, en essayant d'expliquer. Et puis, du coup, il répète ce que t'as dit, Steve.
La chaîne Stars est une chaîne câblée aux États-Unis, qui est à l'origine notamment de la série Spartacus.
D'accord. Ok.
Entre autres.
Bon, voilà. À voir, hein.
En tout cas, la série, donc comme tu l'as dit, hein, Brian Fuller et Michael Green sont attachés au projet. Brian Fuller, c'est Pushing Daisies, notamment, c'est Hannibal,
ouais, tout à fait.
Dernièrement. Ouais, Michael Green a travaillé sur Kings ou sur Heroes. Bon, là, c'est un peu moins prestigieux. Mais bon, voilà. En tout cas, deux showrunners qui ont déjà un petit peu de métier. Adapté American Gods, pari risqué. Mais si Neil Gaiman est attaché au projet, pourquoi pas?
Bah, c'est l'occasion aussi de profiter du fait qu'il va y avoir une adaptation de Sandman au cinéma pour associer le nom de Gaiman à une autre production et peut-être profiter comme ça d'une communication un peu conjointe.
Effectivement, ça peut être une possibilité, ouais. Quelque chose que t'as envie de voir, Benny?
Bah écoute, je ne connais pas l'œuvre originale, donc je vais pas me prononcer, je ne l'ai jamais lu. Et je serais surpris que vous ayez lu ça. Vous l'avez lu? L'avez-vous lu?
Non, American Gods Power?
Je ne l'ai pas lu, mais je me rappelle que Mig nous m'en avait très 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 souvent parlé, un livre qu'il avait adoré. Justement, comme le disait Bruno, un truc qui reprend la mythologie, quelqu'un qui traverse les États-Unis à la recherche des mythes et des anciens dieux.
Ah d'accord, justement. Ouais. Non mais enfin, en tout cas, le pitch donne envie, quoi, ça a l'air sympa.
Et je me rappelle vraiment que Mig, à l'époque, m'avait dit « Faut absolument que tu le lises, dépêche-toi et tout. »
Bah ouais. Oh, mais, tu limites super bien, j'ai l'impression qu'il est là. pas du tout.
J'ai envie de te dire d'aller te faire foutre. Ah bah je l'ai fait, pardon. Allez, on continue avec Arrow pour sa saison 3 qui...
Comment il trash.
Arrow pour sa saison.
Oh putain de merde. Oh sérieux quoi.
Quel rapport. Quel rapport.
Vous avez décidé de faire spécial chanson française ou quoi?
Non mais attends, mais j'ai même pas compris le rapport entre Ming et les gorilles.
Mais non, Arrow gorille.
Oh putain. Oh, j'avais pas entendu. Oui d'accord, oui ok. Arrow gorille. Oh là là. Oh là, c'est tellement moisi.
Vache.
Oh là là.
Ouais, c'est moisi, ouais. Donc, pour sa saison 3, Arrow recrute pas mal de nouvelles personnes au casting, et notamment des nouveaux personnages. On va avoir le personnage de Katana pour cette saison 3. Katana qui va être joué par quelqu'un qui a l'habitude de manier des sabres et des arcs, comme on peut le voir actuellement.
Tout à fait.
Au casting de Sin City.
Oui, c'est Devon Aoki. Voilà, on a pu l'avoir dans Sin City et,
Et donc, oui, dans le premier, c'est... oui, c'est vrai. Oui, t'as raison.
Ouais, c'est parfait, hein, comme casting, on va dire. Elle a le physique de l'emploi. Et puis, elle sait maîtriser, le sabre. Donc,
qu'est-ce que tu sous-entends par là, Bruno? Oui, à partir du moment où il y a quelqu'un qui a les yeux bridés, la belle physique pour katana, c'est ça?
Ça y est, tu vois. C'est moi le raciste.
C'est pas que ça. Hein, c'est pas que ça.
Moi, je me suis réfréné au moins, monsieur.
Putain, Bruno, comment il est raciste, quoi. J'y vois pas.
C'est par rapport au fait que, par rapport à comment elle est dessinée dans la série de DC, le personnage, je trouve, lui ressemble.
T'as vu comment on tire des conclusions?
Ouais, vous êtes des petits bâtards. Mais donc, en plus de ça, on sait qu'il va y avoir également le rôle de son mari, qui va être donc Tatsu.
Joué par l'épée de...
par un autre acteur. Donc, il y aura peut-être justement l'origine story de son épée, ou un truc comme ça. Donc, voilà. Ça peut être amusant.
Personnage intéressant.
Ouais, ils vont piocher dans les personnages en plus qui sont mêlés à l'univers de Green Arrow actuellement dans les comics, puisque dans le run de Jeff Lemire, Katana fait partie d'un des clans, le clan de l'épée. Est-ce qu'ils vont reprendre une histoire un petit peu basée sur ces histoires de clans en fonction des différentes armes totem? Ça pourrait être intéressant. Voilà, ou alors ce sera juste, elle va faire un petit passage, ça va être le personnage d'un épisode, mais pourquoi pas.
Autre personnage arrivé dans la série Arrow, c'est Brandon Routh.
Eh oui. L'acteur qui avait joué Superman dans Superman Returns va retrouver un personnage de l'univers DC, puisqu'il va interpréter le personnage de Ray Palmer dans la série Arrow. Donc, futur Atom. Dans les comics, en tout cas, c'est Atom. Donc, voilà, il rajoute un personnage encore de l'univers DC dans leur série. Il jouera un scientifique, de façon assez normale. Et voilà, est-ce qu'il deviendra Atom par la suite, on le découvrira dans la série, mais ils ont de plus en plus envie d'ajouter des personnages avec peut-être des pouvoirs un peu extravagants, entre une femme avec un sabre qui a une âme et puis un personnage qui peut rétrécir, pourquoi pas.
Non, il deviendra opticien, parce que Atom les opticiens.
Oh putain de merde.
Non, celle-là, elle était pas terrible.
Oh, gorille, c'était pas mieux. tu mériterais de te faire frapper par un gorille.
La sanction qui n'a absolument aucun sens.
En plus, j'imagine trop la scène avec Bruno, tu sais, qui arrive tout sourire et tout, puis paf, une grosse mandale de gorille.
Je défonce le gorille, moi.
On veut pas savoir.
Quelle horreur, Bruno. Cette zoophilie en plus.
Tu nous montreras ça durant le live.
Allez, on continue avec la San Diego Comic Con. Si vous avez envie de voir les pilotes de décès, eh bien vous pourrez le faire le 23 juillet au soir. Alors c'est plutôt sympa pour décès de récupérer ce slot, un slot qui est d'habitude réservé à Marvel.
Dan. Et...
J'allais le faire.
Oh putain, merde, je l'ai pas vu en plus celle-ci. C'est horrible. Qui donc d'habitude est réservé à Marvel. En 2009, on avait eu un panel Iron Man 2 avec screening, etc. En 2010, on avait eu Thor et Captain America. En 2011, j'en avais pas eu. En 2012, ça avait été Iron Man 3. En 2013, c'était Thor et Captain America. Et bien là, c'est DC qui récupère le slot pour présenter tous ces nouveaux pilotes de l'année. Ce sera de 8h à 11h le soir pour ceux qui seront sur place ou qui auront envie d'y aller juste pour ça. Bon, ça fait un peu cher les screenings, mais bon, pourquoi pas. Donc on commence avec The Flash, suivi de Constantine, iZombie et Teen Titans Go. On aura aussi en exclusivité le pilote de Gotham.
Ouais, je pense que c'est ce que les gens attendent le plus, honnêtement.
Bah oui, les autres ils les ont vus déjà.
Bah les autres ils les ont vus, c'est ça, exactement. Les autres ils les ont vus, puis même, enfin c'est quand même le truc le plus ambitieux.
iZombie, le pilote avait pas filtré, je crois.
Non,
ouais, effectivement, mais iZombie c'est quand même plus confidentiel. Là on parle quand même de Gotham, c'est lié à Batman, donc forcément, voilà, ça va plus parler.
Ouais. Non, bah plutôt sympa.
Ouais, c'est vrai, c'est clair.
Carrément. Bon, c'est dommage qu'on ait pas ça en France. Mais enfin bon, voilà, exclusivité de l'événement du salon. Hein.
Rassurez-vous, si vous n'êtes pas sur place le mercredi, vous pourrez le revoir. Certains sont rediffusés pendant la convention. Par exemple, iZombie rediffusé le vendredi. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Constantine, je crois, qui est rediffusé le samedi. Bref, regardez les programmes pour ceux qui vont à la SDCC. On continue avec du Batman cette fois-ci. Batman, on en avait parlé il y a de ça 2-3 mois. On savait que la série devait ressortir en Blu-ray, la série des années 60 avec Adam West.
Ouais.
Magnifique série, Bang, Pouf, Pam, Bo.
Elle est très drôle cette série.
énorme gros coffret qui sort, énorme gros, hein, tu as vu cette redondance, Batman The Complete Series va sortir en DVD, en Blu-ray et aussi en Digital Download, en tout cas aux États-Unis, à voir si ce sera disponible en France en Digital Download, ce sera en novembre, ça y est, on a la date en novembre, et surtout ouais. Tous les épisodes ont été remasterisés digitalement.
Putain, mais le cadeau de Noël de ouf pour les gros geeks comme moi là qui mataient cette série quand on était petit. 120 épisodes. De toute façon, on les a pas tous eu en français. Ils ont pas tous été traduits en français. Il y a eu la moitié peut-être de traduits. Et mais la grande question, c'est est-ce que on aura des versions françaises sur les épisodes déjà traduits ou ce sera l'intégrale en VO. J'aimerais bien qu'ils nous mettent les versions françaises quand même. Ça me ferait marrer de les revoir certains en français.
En tout cas, vraiment énorme coffret. Je sais pas si vous avez regardé cette petite bande-annonce de 30 secondes qui présente l'objet.
Ouais,
les copies ont l'air magistrales, quoi.
Ah oui, ouais. ça va coûter une fortune, par contre, non?
Non, je pense pas. Enfin, 120 épisodes.
Il n'y a pas le prix encore d'annoncer, hein, mais
c'est pas,
en même temps, c'est
pas...
du vieux matos. Hein.
Mais voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est pas une nouvelle série télé non plus, quoi. Donc.
Ah, mais 120 épisodes, ça fera, je sais pas combien de Blu-ray, mais un paquet.
Bah, en même temps, c'est des épisodes d'une demi-heure. Hein.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc il y aura en plus des bonus, etc. Tout ça donc remasterisé digitalement. On sait que certains des auteurs de, enfin des acteurs d'origine sont revenus faire quelques voix, etc. Donc, c'est plutôt cool.
Bon, en tout cas, ça doit pas être l'acteur d'Alfred ni de Tante Harriet qui a dû revenir.
On a notamment ceux qui ont joué Batman, Robin et Catwoman, qui seront aussi présents lors d'un panel à la San Diego Comic Con, qui se tiendra le jeudi.
Il doit avoir un certain âge à force, hein, surtout celui qui jouait Batman, du coup.
Oui, Adam West est quand même assez âgé, mais il est toujours en vie. Et rappelez-vous cette magnifique série The Misadventures of Adam West qui sort chez Blue Water.
Le commissaire Gordon aussi doit plus être des nôtres, parce qu'il était pas tout jeune, je veux dire, dans la série.
Passons maintenant à Marvel pour la télé. Les Guardians of the Galaxy sont vraiment partout, même dans Ultimate Spider-Man. Ah oui, oh putain, j'ai Rocket Raccoon, merde.
Au moins.
Non, c'est au que moins. Je me suis pas épilé.
Et voilà, c'est ça. Oh, quelle bonne blague, on enchaîne.
Oui, donc les Guardians of the Galaxy sont même dans Ultimate Spider-Man, puisqu'on sait qu'on prévoit, en tout cas chez Marvel, un animé Guardians of the Galaxy. C'est un moyen de les introduire pour les jeunes.
Ouais. Alors, il me semble, après, je suis pas un... je ne regarde pas la série avec assiduité, mais il me semble qu'ils sont déjà apparus dans la série auparavant, et là ils font leur retour de façon assez adéquate avec la sortie du film dans la série animée.
Enfin, on termine avec La Fox qui sur son slot de d'animation hein, qui s'appelle FDX. ADHD, voilà.
Ouais.
Donc Fox Animation Domination HD, enfin HD pour haute définition. On sortit un petit spot qui s'appelle le Captain America Statistics Song, un petit truc qui dure 2 minutes, qui vous donne pas mal d'infos statistiques concernant les États-Unis avec Captain America en emblème et c'est vraiment pas joli à voir.
Oui, c'est tout laid. Ouais, c'est pas terrible.
Oui, puis alors c'est, je dirais que c'est la Fox qui fait un gros tacle à Marvel puisqu'ils n'ont pas les droits de Captain America. C'est juste le mettre dans des situations horribles quoi. Voir un Cap obèse, enfin voilà, c'est
un énorme gros. Si...
Ouais.
un Cap énorme gros.
Dans le genre de vidéo, je préfère celle qu'on a diffusée sur la page Facebook là, la version hard metal de Batman. Je sais pas si tu l'as vu, Steve.
Non.
Mais qui est vraiment très très drôle. Tu pourras la voir sur la page Facebook de Comic City.
Oui, à partir du moment où il y a du métal, je regarde. Allez, on a terminé notre partie Screen News. On va maintenant passer aux brèves comics et on va démarrer avec Marvel. Alors, des tie-in à Axis qui pue la merde. Bah, ça commence tout de suite.
Oui,
oh, ça,
avec
ça pue alors la merde.
Attends, mais tu rigoles. Axis, excuse-moi, si c'est comme ça que tu vends un futur event. Bah franchement, ton truc il va se planter quoi.
C'est super sexy.
Je suis sûr que ça va avoir un succès fou. Alors attention, ouais. Axis Carnage déjà, par Rick Spears. Et bien sûr, le fameux Peralta.
German Peralta, ouais.
Ah oui, non, je crois que c'était... Oui, pardon, autant pour moi. Je crois que c'est German Peralta. Je crois que c'était un artiste...
Allemand.
Non, putain, le mec. Oh, la vanne facile, quoi.
Non, mais j'ai vraiment lu ça vite et j'ai cru que c'était... juste Peralta, quoi.
Tant que tu n'as pas lu sa bite, c'est bon.
Germaine Peralta. Donc bon, déjà l'équipe, je les connais pas, et je crois qu'ils ont joué aussi les clowns à un moment. du coup, on va dire ça.
Ils étaient dans le fond à droite.
Ouais, je crois. Donc voilà, donc déjà une mini-série Carnage de plus. Moi, Carnage, j'en ai soupé depuis tellement longtemps, j'en ai marre.
Peut-être. Bah, oui, non, mais on sait que Carnage est présent hein, sur ce gros teaser qu'on avait eu pour Axis. Mmh. Voilà,
ça,
Carnage fait partie du groupe de vilains.
Ça fait ce qui m'intéresse de Supérieur Carnage qui avait bien marché, de toute façon, qui s'était bien vendu. Mmh. Donc.
Ben, je me demande comment ça peut fonctionner, quoi. Carnage, c'est toujours, ça m'a toujours fait chier. Par contre, il y a un personnage qui m'intéresse un peu plus, c'est le Axis, donc Hobgoblin, par Kevin Chinnick et Javier Rodriguez. Ça m'intéresse un peu plus, mais bon.
Surtout voilà, parce que c'est Roderick Kingsley qui est le Hobgoblin.
Oui, 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 c'est l'original. L'original qu'on a pu revoir dans les épisodes de
Supérieur.
Supérieur. C'était dans Supérieur qu'il est revenu, je sais même pas. Non, il est revenu avant.
Bah, on l'a vu ces derniers temps dans Supérieur, en tout cas.
Ouais, ouais.
Ce que l'on sait, en tout cas, des deux mini-séries donc, qui seront tie-in à Axis, c'est que pour les deux personnages précités, ce sont tous les deux des personnages qui vont revenir à New York à ce moment-là. Donc, on assistera à leur retour à New York et à comment ils reprennent les choses en main dans la mini-série, j'imagine. Mais franchement, enfin, vous trouvez ça vendeur, vous ? Annoncer les premiers tie-in d'un futur event avec Carnage et Hobgoblin ?
Ouais, bof.
C'est bof. Mais comme disait Bruno, y a des gens apparemment qui apprécient Carnage, puisque c'est vrai qu'il y a eu de nombreuses mini-séries et à chaque fois ça fonctionne. Je sais pas comment. J'attends le Deadpool Carnage.
Mais déjà fait.
Ouais, c'est déjà
fait. Ah bon?
Mais oui, c'est déjà fait. Ça devrait sortir en français.
Carnage, c'est en ce moment là.
Ça devrait sortir en français d'ici peu.
C'est terminé il y a deux semaines.
Le visionnaire de ouf.
Ouais.
Le visionnaire de ouf.
Ouais, le visionnaire passer quand même.
Un jour, faudra quand même créer des machines dans lesquelles tu mets du pain, tu sais, puis ça le grille.
Putain.
Je pense que ce serait quand même vachement pratique. Non, mais je sais pas, j'ai cette idée. Je suis quand même assez fier de moi.
T'as fait mourir, Steve.
J'en avalais de travers. Ouais. Putain. C'est les miettes de pain qui sont mal passées.
C'est ça, au fait. Mais c'est justement, ça va consolider le pain et ça te permettra de le manger plus en bloc. Tu vois l'idée?
Putain, ta vanne m'a fait pleurer, quoi. Sérieux. Et pas forcément de joie. Hein. Je suis passé très près de la mort. J'ai vu la faucheuse, j'ai vu ma vie défiler, là.
Ouais. Très près de la mort, c'est à cause d'un grippin.
Et oui, mais tout est prévu.
Ouais.
Puisque c'est la mort du mutant griffu.
Tué par un grippin, il fout ses griffes dans un grippin, il est électrocuté. Quel con.
Et malheureusement, son facteur auto-guérisseur, il n'y en a plus, on le sait.
Ah oui.
Alors cette mini-série, je sais pas pourquoi, la mini-série écrite par Charles Soule, qui va se centrer sur la mort de Wolverine, les conséquences, en tout cas pour le côté humain de Logan, qui devrait sortir tout au long du mois de septembre en format hebdo, une mini-série en 4 parties. Aura droit à des variantes canadiennes, bien marquées sur la cover Death of Wolverine Canada.
Ouais.
Et c'est étonnant, c'est étonnant. Comment peut-on croire à ce truc-là alors qu'il est déjà mort, en plus? Il est déjà allé en enfer, il a déjà affronté le diable, il a affronté Lazaer, l'espèce de gars qu'il devait affronter à chaque fois qu'il mourait, enfin. Je sais pas,
il faut lire le titre de Cullen Bunn, ouais. Puisqu'on est actuellement dans cet arc qui s'appelle.
Attends, c'est
X Months to Die.
Putain, je suis tellement à la masse sur Wolverine que je sais plus.
C'est Cornell encore.
Oui, c'est Cornell, pardon, j'ai dit Cullen Bunn, excusez-moi.
Ouais, c'est pour ça, alors je pensais que ça avait changé en plus. Ok.
Non, oui, effectivement, c'est Paul Cornell, oui.
Alors, une variante Canada, ça s'inspire pas mal de ce qu'on a pu voir pour Justice League of America ou pour plus récemment Justice League United qui a eu droit justement à sa variante Canada. Donc, il surfe un petit peu sur ce qu'a déjà fait DC. Ça avait bien marché, ça s'était bien vendu là-bas, donc ça leur coûte pas cher à faire, donc.
Ouais.
Alors en plus, chaque numéro de la mini-série aura droit à une variante canadienne, pas que pour le numéro 1. Si c'est pas classe, ça.
Surtout que c'est très amusant, parce qu'en fait, au lieu de faire un dessin spécial exprès, c'est vraiment juste, ils foutent la feuille quoi, d'érable sur la couverture un peu partout.
Ouais.
Voilà.
Rappelons aux jeunes qui nous lisent que oui, c'est une feuille d'érable et pas une feuille de cannabis.
Ouais. Contrairement à nous, hein. C'est nous, si on avait une variante, ce serait une feuille de cannabis.
Ouf, non.
Juste qu'on sort dans cette émission.
Mais
il faut
non,
bien
le
ça.
Le pire, c'est que c'est du comme ça, c'est du naturel chez nous.
Oui, bah on le produit nous-mêmes le cannabis.
Rien.
On va avoir des problèmes à force. On va vraiment avoir des problèmes. Continuons avec une nouvelle série, Spider-Woman.
Oui, Spider-Woman qui va revenir avec un titre ongoing, probablement, et qui va être dessiné par Greg Land.
C'est vrai. Donc, que le dernier avait tellement bien marché.
Voilà.
Alors pour le moment c'est une rumeur. Hein. Pour le moment c'est une rumeur,
ouais,
précisément.
Pour le moment
quand
c'est
même
une rumeur, sachant qu'au niveau du scénariste, ça pourrait être soit Denis O'Pless, soit Cullen Bunn.
Voilà d'où mon erreur de tout à l'heure.
Eh voilà, exactement. Mais bien entendu. Sauf que ce sera Paul Cornell comme par hasard qui va.
Non, apparemment ce serait Denis O'Pless.
Ouais, c'est ça. Le dernier update, c'est ça. Et bon, après Greg Land.
Ce qui montre que cette série n'a pas d'espoir, effectivement.
Oh là là, c'est ce que j'allais dire. Oh,
grillé.
Oh, grippin.
Grillé comme le pain.
Greg Land qu'on peut critiquer pour son art, mais qui a fait du boulot plutôt correct sur
non, mais Avengers. Biscotrage. Enfin bon, pas vrai.
Non, putain.
Donc à voir. Mais en tout cas, faire revenir sur le devant de la scène le personnage.
Non,
de
on s'en fout, Bruno,
Roman,
arrête de
pas
parler, ça sert à rien.
Go fuck yourself.
Meilleure intervention. Non, c'est vrai que la dernière série Spider-Woman était scénarisée par Brian Michael Bendis, dessinée par Alex Maleev, mais c'était à la base un motion fucking comics. Et Alex Maleev a juste jeté l'éponge, j'en ai eu marre de redessiner encore la même case. Il a laissé tomber, donc cette série s'était arrêtée au numéro 7.
Ouais, c'était un travail de Romain pour peu de retours, puisque finalement c'est une série qui a eu... qui a même pas eu un succès fou, quoi. Enfin, faut dire que c'est pas un personnage qui déchaîne les foules non plus.
La série était pas trop mal, mais voilà, elle était encore bercée à l'époque de par les retours de Secret Invasion. On avait Spider-Man qui se disait, oh là là, j'ai été remplacé par un Skrull pendant des années, etc.
Ouais, suis-je moi, suis-je un agent infiltré, ouais. Un triple agent, un quadruple, je ne sais plus. Parce qu'elle a été agent de tout, hein, de toute façon.
Ouais, même du Shield. Bon, remarque, qui ne l'a pas été.
Du Shield, du...
De l'Hydra,
ouais. Des Skrulls, donc tu vois, ça commence à faire beaucoup sur un CV tout ça.
Allez, on termine avec du Captain America. Captain America qui, on le sait à la lecture de ce numéro 22 qui est sorti mercredi dernier, Captain America qui est en mauvaise posture. On comprend un peu mieux le teaser qu'on avait eu il y a quelques semaines.
Oui,
et oui, du coup
The Time's Run Out, enfin, puis les numéros qu'on va avoir au mois de septembre. On avait un Captain America assez modifié. On avait même eu l'identité de ce fameux Captain America qui avait
un vieux Steve Rogers. Hein.
Ouais. Donc voilà. Étonnant.
Alors moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est ce que je disais à Steve avant l'émission, c'est quid de la comment dire l'interconnexion. Putain, je trouve plus le mot entre les séries Marvel actuellement, puisque c'est du grand n'importe quoi. Steve Rogers est super vieux dans son titre et puis dans les titres Avengers pas du tout.
Mais ça, en même temps, moi, ça fait des mois.
Oui,
et des
non, non, mais là,
sur
là
le
c'est normal.
Que...
C'est pire en pire.
Non, mais là, il est super vieux parce qu'au mois de septembre, ce sera le numéro qui se passe dans le futur.
Non, mais il est déjà vieux. Il était déjà vieux dans le comic de cette semaine, hein, Bruno. Tu l'as peut-être pas lu, mais
il est en train de mourir.
Il était déjà vieux dans le Captain America 22 de cette semaine.
D'accord. Ok.
Mais non, de toute façon, il n'y a plus aucune cohérence éditoriale entre les titres Marvel.
C'est ça, de cohérence. S'il y a que 7 mois d'écart, c'est normal qu'il soit encore vieux dans 7 mois, quoi. Mais
non, mais c'est pas ça, mais regarde dans Avengers actuellement.
Ouais, dans Avengers actuellement, il est dans un arc où en fait il voyage à travers le temps, et ça peut s'être passé sur même pas 20 secondes au final. Les 8 épisodes là, ouais, qu'on se tape là, qui sont vraiment bien, mais qui ça aurait pu se passer en un clin d'œil, quoi.
Non, mais enfin, on a beau chipoter, mais avant c'était quand même bien plus raccord. Quand tu regardes dans les années 90, t'avais même quelquefois, c'est ce que je disais, une explosion sur une case, et on te disait voir tel épisode qui sortait la même semaine.
C'est vrai.
C'était
c'est vrai.
Là on parle de trucs qu'on verra dans plusieurs mois, donc bon, ça m'agace un peu, quoi.
C'est un peu le bordel, ouais. Chez Marvel, ouais, c'est vraiment le bordel même. Et justement, Captain America sera repris par... Alors, on a ce teaser qui va tomber dans la semaine, la nouvelle identité de Captain America. On a un premier teaser avec l'ombre de Captain America, ce qui fait qu'on peut vachement deviner qui c'est. Bref,
bon,
on peut
peut-être deviner qui ce ne sera pas. À mon avis, ce ne sera pas Bucky quand même.
Ce ne sera pas tous les personnages que tu vois derrière, déjà.
Déjà.
Oui, aussi. Oh, ou peut-être.
Ah, le mec a un don de dédoublement. Ouais.
Non, mais vu que c'est une couverture et que ça veut rien dire, à la rigueur.
À moins que le nouveau Captain America soit en fait Wolverine, et que c'est pour ça qu'en fait il nous faut croire qu'il meurt.
Oui, puisque c'est, faut pas oublier que c'est une arme, c'est l'arme 10, hein, bien sûr. Depuis que Morrison a décidé que, voilà.
Bref, tout ce que l'on sait, c'est qu'avec ce teaser, Stuart Immonen va quitter
All New X-Men
au numéro 29 et dessinera Captain America par la suite.
Ouais, bon, écoute, pourquoi pas. Par contre, j'ai un peu peur pour les artistes qui restent sur All New X-Men. Moi, j'aimais bien Immonen quand même. C'était mon artiste préféré sur ce titre. Donc bon.
Moi, je suis plutôt content qu'il aille sur Captain America, du coup, parce que ça permettra peut-être de relancer un petit peu la série. Voilà,
On va peut-être même la relancer encore plus rapidement avec un nouveau scénariste, étant donné que Rick Remender est en train de se faire tracher buver un coup pour son run sur Captain America. Une grosse campagne a été lancée sur Twitter avec un hashtag Fire Rick Remender pour les problèmes à travers son run, et notamment des problèmes d'âge avec des personnages.
C'est débile, c'est n'importe quoi. C'est un mec frustré qui comprend pas et qui lit pas le comics, qui
s'énerve. Ouais, c'est moi, j'avoue, encore une fois.
Voilà, il est reproché en fait au scénariste d'avoir fait que le personnage de Falcon couche avec une nana que Cap avait rencontrée pendant le premier arc.
La fille d'Arnim Zola.
Voilà, la fille d'Arnim Zola. Et c'est explicitement dit dans le comics qu'elle a 23 ans et le mec en question là qui trash Remender. Voilà, il a pas compris, il croyait qu'elle était plus jeune que ça, il dit « Oh là là, il viole des mineurs », enfin, c'est n'importe quoi, c'est un mec qui a pas lu, qui comprend rien, et qui a pas essayé, voilà, c'est débile. Donc nous voilà, une campagne de trash sans doute qui va tomber dans l'oubli très rapidement, et voilà, Remender fait du très bon boulot actuellement chez Marvel. Et...
En tout cas, Captain America, je sais pas si c'est très plébiscité, parce que, les gens qui le lisent trouvent pas ça génial en ce moment.
Bah, il y a des hauts et des bas, mais justement, j'ai pas lu le 22, j'ai juste vu les parties là qui concernent justement ce fameux trash.
T'as vu
mais...
les parties Steve Rogers, hein, ouais, c'est
exactement,
sûr.
Mais l'arc actuel est quand même super bien, justement avec le Iron Nail. Donc moi j'ai bien aimé. Il y a l'arc avec New qui était un peu plus faible, effectivement.
Ouais, c'est le dernier que j'avais lu l'un des épisodes de cet arc, c'était pas terrible du tout, quoi.
En tout cas, je pense qu'il y aurait plus grosse campagne à faire que ça, notamment concernant les problèmes de cohérence éditoriale dont on parlait.
Oui, bah c'est global, hein, c'est global. C'est pas un mec qui est responsable de tout, quoi.
Donc bon, voilà, emballez-vous pour quelque chose de franchement utile, quoi.
Emballez-vous parce que vous aimez. Oh, oui. C'est beau.
C'est beau. C'est sur cette note d'espoir que nous allons passer à DC.
Ah, DC.
DC, voilà. Et on démarre avec la nouvelle équipe créative de Wonder Woman qui est enfin annoncée.
Une équipe créative Bruno va adorer.
Brian
et que moi
Azzarello
je vais détester.
Brian Azzarello et Cliff Chiang quittent le titre au numéro 35. Et donc au numéro 36, nouvelle équipe créative. Ce sera donc pour le mois de novembre juste après le Future's End. Il y aura un petit numéro qui termine l'ensemble et voilà.
Ce sera pour le numéro 36.
C'est la semaine des nouvelles un peu bizarres chez DC, des bonnes et des moins bonnes. Enfin, pour ma part, Azzarello aura peut-être suffisamment écrit sur Wonder Woman. Il aura peut-être écrit tout ce qu'il voulait dire
sur
le personnage.
Il a dit
qu'il voulait faire 3 ans, et il aura fait 3 ans.
Voilà. Ouais, alors, donc franchement, on l'a pas poussé dehors.
On peut être content des 3 ans. Reste que je trouve qu'il avait vraiment bien remonté le titre. Et j'espère qu'on restera sur cette dynamique.
Ah bah, bon, ça m'étonnerait.
Ah bon, t'as lu le pitch?
Non mais attends, déjà les creep créatives. Donc David Finch, hein, quand même, et Meredith Finch, donc sa femme,
qui sera
au scénario. Bon, alors graphiquement, David Finch sur du Wonder Woman, ça peut être sympa, mais est-ce qu'il va tenir les délais, est-ce qu'il va faire plus de 6 épisodes à la suite?
Et qu'il se prenne un putain d'encreur au lieu d'essayer de s'en créer lui-même comme il a fait dans Forever Evil, et en plus en nous rendant un travail dégueulasse, quoi.
Voilà. Non, mais c'était pas top. Là, j'ai très peur qu'il tienne pas les délais. Et puis en plus, j'ai rien contre Meredith Finch, mais ça sent quand même le gros, c'est sa femme, donc il la place facilement sur un titre. Je sais pas trop ce qu'elle a fait avant, mais ça va être quand même difficile de passer après Brian Azzarello, et ça va être à mon avis beaucoup moins psychologique et beaucoup plus grosse guerrière à la Xena, quoi. Alors
justement, c'est même pas ça en plus, c'est ça le pire.
Justement, vas-y, le pitch.
C'est que on va revenir avec une Wonder Woman plus interconnectée avec le DCU classique, relation avec les Amazones et la Justice League qui sont plutôt explorées dans ce run de David Finch et Meredith Finch, avec, selon Meredith, une grosse inspiration de la série des années 70 de Wonder Woman.
Oui.
Oui. Ouais.
Bon,
Non mais.
J'adore voilà. les réactions des mecs. Vous avez
je pense qu'on va vers un gros bide. Franchement, je pense qu'on va vers un gros bide, vers un truc qui sera juste mauvais. Et quel dommage, surtout de passer. Enfin, c'est vraiment les deux extrêmes quoi. Azzarello, on a fait un truc totalement à part, presque indé finalement. C'était ouais. Ça avait plus rien à voir. Et là, revenir d'un seul coup à la Wonder Woman Justice League. Bon, c'était vraiment utile.
Ouais, en tout cas, c'est... que trois lignes. On a que trois lignes de pitch. On peut laisser le bénéfice du doute. Peut-être qu'on sera surpris. Hein. Meredith
non.
Finch, elle a jamais, enfin, elle a rien fait avant, effectivement. Mais
si, si,
voilà,
elle a écrit Tales from Oz.
Bon, voilà, elle a pas fait grand chose. Mais
chez Inscope.
D'accord. Ok.
Voilà. Donc mais... c'est effectivement, effectivement, ça plaide. Là, on aime le procédural.
Ce qu'on peut,
si c'est son procès,
ce qu'on peut imaginer,
elle est sûre
c'est que du côté de chez DC, bientôt, on va faire un petit peu de communication en annonçant, voilà, que bah, le personnage de Wonder Woman est dans dans Superman vs Batman, qu'elle va avoir son propre film. Sans doute que le comics, du coup, sera un petit peu plus proche. Tu vas adorer ça, Steve, de ce qu'on voit peut-être dans les films. Avec plus l'interaction avec la Justice League ou avec plus son histoire perso vis-à-vis des Amazones, tout le run de d'Azzarello, c'est pas des choses qu'on pourrait voir dans les films. Enfin, je les vois mal adapter le run d'Azzarello en film avec les dieux grecs version moderne. Enfin, ce qui serait cool, quoi. Mais je veux dire, Wonder Woman toute seule sans la Justice League, sans les autres super-héros, ça serait pas très bankable au cinéma, je pense. Mais voilà, je pense qu'ils veulent faire un truc un peu plus consensuel.
Bon, tu sais, chez DC, ils ont tellement l'habitude de se chier dessus depuis ces dernières années que maintenant, plus rien ne m'étonne, quoi.
Moi, je pense que la fameuse série qu'on n'a pas eue de Wonder Woman avec, je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice qui devait jouer le rôle de Wonder Woman.
La série qui devait être créée par David O'Kelley.
Voilà, et ben, je pense qu'on aura au moins l'homologue de ça dans le comics avec... écrite par Meredith Finch, quoi. Ça va être un truc un peu comme ça, ou enfin, faut pas espérer grand chose à mon avis.
Mais justement, dans les changements d'équipe créative, on continue avec une annonce qui est tombée cette semaine. C'est le changement d'équipe créative sur Green Arrow, qui aura une nouvelle équipe créative à partir du mois d'octobre, donc juste après le mois Future's End.
Ouais.
Et alors là, ça fait mal aux couilles aussi.
Ah oui, oui, ouais. Bah, c'était, c'est vraiment dommage puisque c'est le départ de Jeff Lemire qui, bah, comme Azzarello dit qu'il a suffisamment raconté sur le personnage.
Il aura fait 18 épisodes.
Voilà. 18 épisodes qui sont vraiment superbes, quoi, et fabuleux. C'était peut-être ma série préférée actuellement chez DC.
Peut-être un peu plus si on compte les tie-ins.
Ouais.
Bah, un petit peu ce qu'a fait, c'est un petit peu ce qu'a fait Jeff Jones sur Aquaman. C'est vraiment dommage. C'est, au moment où il place des choses, où il révolutionne la mythologie autour du personnage, finalement, ils partent, quoi. Ils partent tous, c'est un peu... bon.
En même temps, je suis pas mécontent de ce que fait Jeff Parker sur le titre, moi.
Moi, je t'avoue, ça m'intéresse absolument pas. J'ai vraiment essayé, et ça m'intéresse absolument pas. Je retrouve ce qu'il avait fait un peu sur Hulk, et c'est vraiment pas pour moi.
Ce qui était intéressant, c'est que bah, l'équipe créative de Green Arrow jusqu'à présent, en plus, c'était aussi beaucoup le travail d'Andrea Sorrentino qui fournissait un boulot monstre et vraiment de qualité sur le titre, bah, presque sans aucune interruption. Là, du coup, c'est toute l'équipe qui s'en va, Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, et qui vont être remplacés par Andrew Kreisberg.
Mais attends, juste avant d'annoncer l'artiste, je préfère d'ailleurs qu'Andrea Sorrentino s'en aille. Comme ça garde l'aspect run Lemire Sorrentino plutôt que un nouveau scénariste arrive avec le même dessinateur. Il y avait vraiment un feeling, au moins on va changer complètement, quoi.
Ouais, ouais.
Parce que je suis désolé, mais Kreisberg n'a pas le talent de Lemire.
Oui, oui, tout à fait. Après, où est-ce qu'on va voir Andrea Sorrentino? Moi, j'ai peur que DC perde Sorrentino, puisque je crois pas que l'artiste soit exclusif. Il avait fait du High Vampire, c'était vraiment très beau. Ce qu'il a fait sur Green Arrow, c'était très beau. Pour l'instant, il n'y a aucune annonce. Il y a pas mal d'annonces, hein, de nouvelles séries, on va revenir dessus après. Pour l'instant, il n'a pas été... le mercato, voilà, il n'est pas allé sur un autre titre de DC.
Oui, enfin, en même temps, c'est les premières annonces pour le mois d'octobre,
c'est
novembre.
Vrai, c'est vrai.
Il y a la SDCC, il y a encore un peu de temps, quoi.
J'espère qu'ils vont le garder dans leur giron, parce que c'est quand même un gros atout. Donc la nouvelle équipe créative, comme tu dis, donc il y aura Kreisberg, qui sera pas tout seul, il sera aussi accompagné
de Ben Sokolowski.
Ben Sokolowski. Donc c'est des noms, si vous êtes amateur de la série télé Arrow, qui vous diront quelque chose, puisque ils travaillent tous les deux sur la série télé.
J'aurais qu'à dire si vous êtes amateur de noms super compliqués.
Voilà.
Et le dessinateur sera Daniel Sampere.
Alors Daniel Samperet, qu'on a pu voir sur des titres, je crois qu'il était sur sur Pandora ou sur Phantom Stranger, je sais plus, un des deux. C'est sympathique, mais on va dire c'est un peu plus, enfin c'est pas pour être trop péjoratif, mais c'est un peu plus le tout venant du comics, quoi.
Voilà, il a fait du Bad Girl aussi, il a fait du Birds of Prey.
Enfin bref, ça vend pas du rêve, cette nouvelle équipe, quoi.
Ça vend pas du rêve, et d'autant plus qu'on nous annonce qu'on veut injecter de plus en plus de choses qui viennent de la série télé Arrow, qui marche bien, dans le comics.
Ah là là. Ouais.
Je crois qu'il y a récemment, ils ont annoncé un personnage de la série, je crois qu'il y a l'assistante d'Oliver Queen qui va apparaître dans le comics. Peut-être que ce sera différent, peut-être que ce sera adapté différemment, mais en tout cas, il y aura son nom qui sera présent dans le comics. Et voilà, mais ils veulent retrouver aussi, a priori, les racines du personnage avec son côté un peu plus Robin des Bois communiste.
Communiste. Putain, le mec, comme il t'y va, quoi. Comme il t'y va. Oui, ils veulent lui redonner des racines un peu plus politiques.
Un peu plus Besancenot, quoi.
Ah, je le vois bien avec un arc et un costume vert, quoi.
Ah, moi aussi.
Bon, ce qu'on peut se rassurer, c'est que Jeff Lemire est encore quand même avec Green Arrow sur Justice League United, donc il a pas complètement quitté le personnage. Il amènera peut-être encore des choses intéressantes dessus.
Il va peut-être quitter Justice League United, hein, finalement.
Pour le moment, ouais, peut-être.
Il va peut-être partir chez Image faire de l'indé.
Enfin bon, ça, perso, alors là, c'est vraiment mon avis à moi. C'est vraiment deux annonces de merde.
Ce serait pas étonnant qu'il fasse de l'indé, je veux dire, Jeff Lemire vient de là. Non, ce qui serait étonnant, ce serait d'annoncer que le mec arrive chez Marvel, tu vois.
Ouais, mais j'y crois pas. Tu vois, j'y crois
non,
pas.
Non, j'y crois pas, mais je veux dire, là, ce serait étonnant, parce que qu'il aille chez Image faire de l'indé, bon, il a déjà fait de l'indé, quoi.
Ouais. Non, mais je le vois pas vraiment faire ça, parce que j'ai pas l'impression qu'il ait des problèmes chez DC.
De là aller travailler United et Futures End, donc
puis il y a surtout aussi son projet de Teen Titans Earth One là, qui débarque à la fin de l'année et qui du coup ça a dû pas mal l'occuper, et ça montre quand même que DC lui fait une énorme confiance en lui filant un titre pareil, quoi.
On a des artistes comme Charles Soule qui joue sur tous les tableaux,
tout à fait, donc, ou même Cullen Bunn, hein, qui vraiment, voilà, ouais. Ils arrivent à jongler entre l'indé, le Marvel, le DC de façon assez facile.
Mais quelle transition, dis donc. Mais quelle transition, Cullen Bunn qui a un autre projet chez DC aussi.
Eh oui,
Cullen Bunn. Un projet qui fera plaisir à Steve.
Oui, oh bah oui, je gueulais pas assez dessus la semaine dernière.
Mmh. Ouais.
La gueule qu'il a en plus.
Vous vous rappelez de Lobo ? Il y en a deux maintenant dans les New 52. Il y a le beau Lobo et le faux Lobo.
Là, qui s'appelle le Faux Beau, ouais.
Le Faux Beau. Et donc, il va y avoir carrément un nouveau titre qui va s'intéresser justement à ces deux personnages. Surtout le nouveau. L'ancien apparaîtra dedans, mais peut-être pas autant qu'on le pense. Voilà.
Donc, Cullen Bunn sera au scénario et au dessin. Brown, mais je cherche son nom. Rayleigh Brown, qui a dessiné notamment Cable et Deadpool. Qui de cette série devrait démarrer en octobre.
Ouais.
Et bah, tu as hâte.
À fond. Des nouvelles séries qui débarquent chez DC, mais assez bizarres. On a ces deux séries dans l'univers Batman qui effleurent l'univers Batman, ouais. Sans y être vraiment. Nouvelle série aussi à débarquer au mois d'octobre. Alors là, grosse surprise.
Deathstroke.
Saison des relaunchs, Deathstroke. Deathstroke revient après s'être gravement planté au début des New 52.
Je pense que c'est encore l'effet Arrow, hein.
Ben oui, c'est notamment l'effet Arrow, l'effet Batman Arkham Origins aussi.
Oui, aussi. Oui.
Les jeux vidéo, la série, le personnage est très populaire. Il se vend bien en figurine, il se vend bien justement. Et par contre, il se vendait pas dans sa série principale des New 52. Mais là, ils vont relancer.
Puis alors, il se vendait encore moins quand il y avait Rob Liefeld.
Ouais, c'est ça. Donc, il relance le titre un petit peu comme Teen Titans et Suicide Squad, avec une équipe
attention.
Sympa
attention.
Quand même.
Une équipe sympa, une équipe qui s'est déjà plantée.
Oui, effectivement.
Je veux dire, c'est déjà planté sur Rockman.
Une équipe en plus logique pour ce type de personnage. Je veux dire, le mec qui écrit plus des scénarios de bourrin qu'autre chose.
C'est du bourrinage.
Ouais, voilà. Parce qu'il s'agit de Tony Daniel qui sera Tony scénariste Daniel. Et dessinateur.
Et dessinateur, voilà. Aidé de Sandu Florea. Voilà, et bon.
Bah... donc Tony Daniel avait démarré la série Savage Hawkman, hein, qui était là au tout début de
la. Mais il ne l'a dessiné pas, par contre.
Il a dessiné pas. Il a scénarisé seulement. Il est resté, je crois, 6-7 numéros, un truc comme ça. Ouais. Et puis s'en va.
Ouais. Bah, ça a eu le même destin que la première série Deathstroke, en plus.
Et il est resté 8 épisodes. Et puis ensuite, ça a été repris par Rob Liefeld.
Voilà.
Qui a lui aussi bien pourri la série.
Et qui a fait du Deathstroke aussi.
Oui, oui, bah oui, voilà.
À l'époque.
Donc, bizarrement, deux personnages qui reviennent.
Bon. Ouais, 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 non, mais c'est. Je pense que ça fera plaisir à Sam.
Oui, oui, ben...
Je pense qu'il va adorer ce titre.
Il va kiffer. Après, ouais. Tony Daniel, il a fait du super boulot d'un point de vue graphique sur Superman Wonder Woman. Je suis un petit peu
ah oui
désolé.
Non, mais bien sûr, non, mais d'un point de vue graphique, oui.
Ça va être sans doute sympathique à regarder. Faudra voir ce qu'ils vont faire au niveau du scénar.
Il sera toujours accompagné de Sandu Florea, hein, son encreur. Ouais.
Il est déjà dans la Suicide Squad quand même, déjà, Deathstroke. Mm-hmm. Bon, voilà.
Ça nouvelle va faire Suicide Squad où on avait justement un preview hein, ces dernières semaines dans les comics DC.
Ouais. Oui, oui, oui. Bah, voilà, c'est plus une saison 2 hein, au final, puisqu'on garde un peu la même base. Il y a juste l'équipe qui change un petit peu, mais ça prend en compte quand même ce qui s'est passé avant. Donc,
Bah, c'est pas si mal. Franchement, c'est pas si mal. C'est le Thunderbolts de chez DC, et, voilà. Enfin, il y a pire, hein, honnêtement.
Mm. Bah, en tout cas, oui, c'est ce vers quoi on se dirige avec cette nouvelle incarnation de Suicide Squad. Beaucoup moins d'Amanda Waller, apparemment, en tout cas de ce que l'on peut voir avec les previews.
Ouais.
Peut-être pas plus mal. Continuons avec une nouvelle série, encore une fois, à se lancer chez DC. Il s'agit d'une série Trinity of Sin.
Ah, oh. Voilà. Ah ben voilà, la bonne nouvelle. Bah,
c'est ce qui nous manquait.
En même temps, on l'avait juste annoncé il y a 6 mois, quoi.
Mais non, ouais, mais il nous manquait ça, pour être heureux. Ouais.
Oui, puisque les séries Phantom Stranger et Pandora s'arrêtent, justement au mois d'août.
Tout le monde va les regretter d'ailleurs amèrement.
Ouais. Ouais, bah, moi, le premier, hein.
Phantom Stranger était vraiment sympathique et j'attends de lire la conclusion avec impatience. Pandora, beaucoup plus en dents de scie. Par contre, ça prend sens de les avoir rassemblés avec en plus The Question dans un titre à eux.
C'est ce qu'on disait il y a déjà 6 mois.
C'est ça.
Non, c'est ce qu'on disait depuis le début. Hein. C'est ce qu'on disait depuis le début, je pense.
Depuis le Free Comic Book Day. Hein,
voilà, c'est ça. Non, mais c'est clairement. Clairement.
Bah, depuis 2 ans. Depuis Trinity, voilà. Ouais.
Ça fait 2 ans qu'on dit ça et donc, enfin, ils nous ont entendu.
Voilà. Et
ah, c'est le temps qu'ils trouvent des traducteurs, en fait, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Avec le scénariste de Phantom Stranger qui reste à la barre. Donc,
Oui, mais en même temps, c'est un très bon scénariste. Hein, ouais. J.M. DeMatteis, voilà, quelqu'un qui n'a plus rien à prouver aujourd'hui.
C'est ça. Donc le pitch est intéressant puisque ça va être une menace qui va vouloir pomper les péchés de ces trois sinners.
Ah bah oui, forcément, ça parle de pompe, ça intéresse Bruno.
pour amener
parce qu'il est très sportif, Bruno, ça se voit.
L'horreur et tout. L'horreur sur le monde, donc ce sera dans le premier arc qui sera en 6 numéros, sachant que la suite il a teasé peut-être des explications par rapport au rôle de Pandora et la création des New 52.
Oui, bon, en même temps c'est ce qu'on nous teasait déjà dans la série originale de Pandora,
c'est
non
ça, c'est ça.
Les dessins seront assurés par Yvel Guichet, qui avait pas mal officié sur des comics des comics digitaux. Et qui a un style qui est pas dégueulasse, hein, je trouve. Hein.
Bah ouais, franchement. Enfin, en tout cas, la couverture que je vois, c'est bien de lui, la couverture. Je la trouve très jolie, effectivement. Non, c'est la couverture de Guillaume March, donc ce n'est pas du tout ça.
Non, mais enfin, je veux dire, c'est correct, quoi. Bref, passons à autre chose chez DC. Neal Adams, qui va revenir sur un projet.
Oui, alors c'est une info qu'on a eue sur Bleeding Cool, au travers d'une interview qu'il a fait sur son site. Il annonce la création d'un titre qui s'appellerait Superman The Arrival of Superman. Voilà, une sorte peut-être sous un format de graphic novel, on sait pas trop comment ça va être publié, mais où il va redessiner du Superman avec une histoire un peu abracadabrantesque où des Superman arrivent sur Terre et du coup Superman pensait être le seul. Enfin, c'est un truc qu'on a déjà vu 50 000 fois.
Oui, Jay Jones en avait fait tout un arc qui avait duré plus d'un an.
Oui, qui est en train de refaire la même chose.
C'est surtout qu'en plus, il va toucher à des concepts assez intéressants, puisqu'il va toucher au concept des New Gods de Jack Kirby. Ouais. Il va dessiner pas mal de personnages. C'est plutôt l'intérêt de voir Neal Adams dessiner les personnages de Jack Kirby plutôt qu'autre chose. Hein. Je pense
Je pense que ce sera au moins aussi bien que Batman Odyssey.
Bon, c'est vrai que Neil Adams n'a plus le style d'antan, clairement.
Non, puis même, ouais. Scénaristiquement parlant, quoi. Parce que Batman Odyssey, c'était à prendre avec un bon truc de cannabis, mais alors un arbre entier. Hein.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Et puis son style même sur, plan, sur Savage arbre. Hulk, je sais pas si vous avez lu le, je sais pas si vous avez lu Savage Hulk numéro 1, mais c'était pas son meilleur niveau, hein, au niveau dessin.
Non, mais Neil Adams n'est plus le Neil Adams d'avant.
Ça reste quand même un bon, ouais.
Ouais, non, mais enfin ça reste sympa. Mais c'est comme Chris Claremont, quoi. C'est voilà.
Ouais, imagine un titre avec les deux, quoi.
Oh la vache.
L'apocalypse.
Bah là, ils pourraient vraiment faire l'apocalypse. Mais je pense qu'ils vont les garder pour les derniers numéros d'Ultimate.
Ça c'est fait. Allez, on termine très vite. On voudrait pas que cette émission dure trop longtemps, puisque non, Bunny est attendu. Il est déjà en retard d'un quart d'heure.
C'est vrai. Ouais. Bah j'ai prévenu.
Green Lantern qui sort de son crossover Uprising, qui était un crossover entre Green Lantern et Green Lantern Corps. Une interview de Venditti nous annonce pas mal de nouvelles choses concernant Green Lantern, et notamment une grosse menace à venir bientôt, un énorme crossover entre les titres Green Lantern, dont Sinestro fera partie aussi. Il y avait une interview de Cullen Bunn cette semaine concernant ce gros event Green Lantern qui va débarquer bientôt, et surtout cette menace qui serait une menace non pas uniquement réservée à l'univers cosmique Green Lanternien du DC Universe, mais de tout l'univers DC.
I love the world.
Quelque chose qu'on pourra voir débarquer lors du mois de septembre, lors du mois Futures End notamment. Une nouvelle galerie de personnages qui va venir embêter Hal Jordan le pauvre.
Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un gros event crossover entre toutes les franchises Green Lantern avec un nouveau personnage qui apparaît et qui est la grosse menace.
Je sais pas.
Je déconne. Non,
hein. C'est 7-8 mois relique.
Oui, voilà, mais c'est ça. Non, mais c'est pour ça
qu'il y avait Uprising aussi.
Mais j'ai l'impression que
Uprising était juste centré sur Green Lantern et Green Lantern Corps. Il vient juste
encore,
de se terminer là.
Et encore, quand tu me dis c'était il y a 8 mois. Tu sais, j'ai vraiment le sentiment que c'était il y a moins longtemps que ça, quoi. C'est,
Non, c'était il y a 8 mois à peu près.
Ouais.
Puisque bah, c'était au moment de Green Lantern 25.
Il serait vraiment temps qu'un jour que je rattrape mon retard sur Green Lantern.
Si ça touche tout le DC-verse, ça va être un petit peu du niveau de Brightest Day ou Blackest Night. Alors.
Bah, c'est ce qu'il faut espérer maintenant. Est-ce que Robert Venditti a les épaules pour? Ouais.
Ah, il paraît qu'il a de toutes petites épaules.
On termine avec le premier visuel des variantes cover pour le mois d'août, les variantes selfie. On a pu voir celle de Batman Superman numéro 14.
Putain, je sais pas pourquoi, mais dès qu'il y a un truc comme ça, tu vois, c'est la folie des selfies, et maintenant, même sur les couvertures, ça me saoule, quoi.
Moi, je la trouve cool. C'est pas qui la dessine, et bah, c'est assez amusant. Hein. On voit rarement Batman sourire, et là.
Oui, mais là, c'est un sourire forcé. Hein. C'est
Est-ce que Batman sourit, franchement?
Non, c'est juste Superman qui lui casse la gueule, tu sais, avec deux doigts et qui le fait sourire.
Moi, ça me fait
marrer. Si t'appuies sur la face comme ça, t'auras cette gueule-là aussi. Hein.
Moi,
même contre ton plein gré. Hein.
Je suis curieux de voir la gueule des autres couvertures selfie.
On voit pas le deuxième bras de Superman, on sait pas, peut-être qu'il est en train de lui faire une petite gâterie à Batman. C'est peut-être pour ça que Batman sourit.
Oui, moi j'attends le selfie du Joker. Je pense qu'il y en aura forcément un qui pourrait être bien drôle. Non, oui, d'accord, mais je comprends. Le gadget, c'est marrant à voir, mais bon.
C'est purement économique. Hein. DC vend un carton de ces variantes. Ils sont mis à faire des variantes pour lesquelles il n'y a pas d'incentive. C'est-à-dire qu'on peut, les comic shops peuvent commander à la fois les normales ou les variantes sans restriction. Ils ont fait ça pour le mois.
C'est
avec
pas
les
une mauvaise idée, ça. Hein.
Avec les bombshells, ils ont fait ça ce mois-ci pour les 75 ans de Batman. Il va y avoir pour les selfies. Ça multiplie un petit peu par deux le nombre de commandes parce que voilà, les comic shops veulent proposer les deux types de variantes et donc ça fait plus de ventes et.
Mais c'est la bonne solution.
Sans incentive, c'est une bonne idée.
Bah oui. C'est beaucoup mieux pour eux.
Ça nous permet d'avoir accès à ce genre de couverture, des choses qu'on pourrait pas avoir d'habitude. Il va y avoir aussi la même chose pour Halloween, qui a été teasé là, pareil, je crois cette semaine. Ils vont faire des couvertures spéciales pour le mois d'octobre.
De toute façon, tous les mois il y a quelque chose. Hein. Ouais. Et pour en novembre, ce sera le spécial Thanksgiving, et en décembre, ce sera spécial Noël.
Oh bah le spécial Thanksgiving, j'attends ça avec impatience. Tout le monde déguisé en dinde.
Je veux dire, si tu cherches, pour tous les mois, tu trouves un truc, quoi. Enfin bon. Allez. Oui, tu oui, veux peut-être rajouter quelque chose?
Non, j'allais dire rien.
Voilà. Ok, très bien. C'était la meilleure intervention de la soirée.
Oui.
Nous allons continuer et terminer notre partie Bref Comics avec les parties indées. Oui, j'ai bien dit les parties indées parce qu'il y en a plusieurs. On commence avec une mini-série.
Comme les deux couilles d'une même partie, quoi.
Oh putain, quelle horreur. Une mini-série chez Boom qui arrivera en septembre, une mini-série en 6 parties par une équipe qui a déjà bossé ensemble. Il s'agit de Dan Abnett et Ian J. Kalbard qui a bossé
Kalbard, c'est normal.
Sur la série The New Dead Guardians chez Vertigo, une série où on avait un monde avec la upper class qui était vampirique et la basse class qui était devenue des zombies et les pauvres humains au milieu qui bossaient comme de la merde. C'était vraiment plutôt pas mal et ils reviennent avec une mini-série donc chez Boom, ça s'appelle Wild's End.
Oui, avec une menace extraterrestre sur la Terre et face à ça, on va avoir en fait les humains sont des sortes de sont anthropomorphes en fait, ils ont des têtes d'animaux.
Et enfin, ce sont des humains qui enfin ce sont des animaux qui sont anthropomorphes, enfin, ce sont pas des humains.
Mais je sais pas si du coup, je sais pas s'il y aura des humains en fait. Ou est-ce qu'il y aura des créatures
têtes de porc.
Ils ont repris un thème qu'ils aiment bien parce que ça va se passer dans les années 30 dans l'Angleterre plutôt rurale hein, donc on est assez proche de l'univers de Dead Guardians oui, qui se passait dans le fin du 19e début du 20e. Voilà des personnages principaux un avec une tête de renard, une tête de chien et un autre avec une tête de lapin, ce qui va faire plaisir à Mr. René Bunny qui ira donc s'empresser de lire cette série voir
oh bah
si
oui.
Le lapin lui correspond.
Exactement.
Ça fait penser à The Fantastic Mr. Fox.
Moi, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup le style d'Ian J. Kalbard. Le style qu'il avait proposé, notamment sur The New Dead Guardians, ça se tient vachement bien à cette ambiance fin 19e, début 20e. Là, en plus, avec des animaux anthropomorphes, pourquoi pas. Je suis moins fan des animaux, mais bon, on verra. Continuons avec l'équipe créative de Batman 66, cette série digitale qui sort chez DC. Situé dans l'univers de la série télé Batman dont on parlait tout à l'heure.
Ouais.
Cette équipe créative donc de Jeff Parker et le dessinateur Sandy Jarrell vont lancer une nouvelle série chez Oni Press qui s'appelle Meteor Man.
Voilà, et c'est au fait l'histoire d'une invasion extraterrestre.
Même pitch que précédemment.
Avec des animaux anthropomorphes. Non putain, non, sans déconner.
Non, il n'y a pas d'animaux, ça va être autour d'un gamin de 16 ans. Et ce qui va être original, c'est que justement, on ne va pas s'intéresser à ce qui se passe dans le monde, mais vraiment juste voir ça à travers les yeux d'un ado, comment il va vivre cette invasion. Et voilà. C'est intriguant.
Oui, non, mais en plus, les visuels sont sympas, franchement. Franchement, ça donne envie. Voilà, ça a l'air cool, quoi. Par contre, les martiens ont des sales gueules de cons. Mais bon, on verra. Non, mais ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Franchement, pour un truc Onipress, c'est vrai qu'on n'y prête pas souvent attention. Bah voilà, ça donne.
Onipress a des bons petits titres en ce moment, quand même.
Ouais. Qui m'y pense.
Oh putain, merde, Bruno. Oh là là. Bref, continuons avec Boom, toujours Boom, le petit éditeur que Bruno adore.
Ah oui.
Retour d'un grand chez Boom, c'est Mark Waid qui revient après son run sur Irredeemable et Incorruptible hein, qu'il avait fait il y a de ça quelques années. Il va revenir sur un projet chez Boom. Pour le moment, il n'a pas trop annoncé, mais voilà, il revient avec un nouveau creator owned chez Boom.
C'était quand même l'ancien Chief Creative Officer hein, de Boom.
Qui avait laissé tomber ses fonctions parce que trop occupé et puis a lancé son label Thrillbent hein, notamment.
Donc, je suis curieux de voir ce qu'il va faire, ce qu'il va écrire pour Boom.
Irredeemable 2.
Boom en fait a décidé de faire pas mal d'annonces avant la San Diego Comic Con. Je crois que chaque jour il y a une petite annonce qui tombe jusqu'à la San Diego Comic Con. Ils en ont sous le frein.
Ils ont annoncé aussi, je me rappelle plus qui, c'est Justin Jordan qui va écrire 3 séries chez Boom aussi. Voilà, Justin Jordan qui a aussi pas mal le vent en poupe ces derniers temps. Ils ont tout intérêt à annoncer ça avant la SDCC, oui. Puisqu'on sait très bien qu'ils auront, enfin en tout cas un petit éditeur comme ça aura beaucoup moins de visibilité qu'un DC Marvel ou carrément l'industrie du cinéma et de la télé.
De plus en plus, on a des annonces comics avant le salon. Et puis finalement, durant le salon, c'est plus tout ce qui est divertissement, séries télé, etc.
C'est vrai.
À force. Finalement, on a deux salons, quoi. On a le pré-salon comics et puis le vrai salon sur place ensuite.
De toute façon, on le sait aujourd'hui, hein, la grande convention aux États-Unis, c'est pas la SDCC, mais la NYCC, la New York Comic Con qui se tient en octobre. C'est là où sont faites vraiment les grosses annonces comics, parce que la SDCC est tellement bouffée par l'entertainment que le comics n'a plus vraiment sa place, quoi.
Mmh. Malheureusement. Sinon, la grosse convention, c'est aussi dans ton slip qu'elle se passe.
Bref, continuons avec Jim Zub. C'était ça la transition, Benny.
C'était ça.
Jim Zub qui, après avoir écrit cette magnifique série Skull Kickers, ou être allé chez IDW pour écrire notamment Samurai Jack, et qui écrit actuellement Shadowman chez Valiant, Jim Zub revient avec un nouveau projet chez Image qui s'appelle Wayward, qui sera une série d'horreur basée sur les mythes japonais.
Oui, avec un design très effectivement japonisant, manga, qui est plutôt sympa à voir. Enfin voilà, ça fait pas très horrifique au fait ce qu'on voit, c'est assez marrant parce que c'est
l'inspiration un petit peu aussi Buffy quoi, avec une héroïne qui va casser des gueules à des monstres.
Ouais.
Plus que Buffy, j'aurais plutôt dit Hack and Slash, même déjà dans l'accoutrement.
Oui, carrément.
Enfin, Hack Slash, pardon.
Un peu plus sexy.
Oui.
En tout cas, voilà, vraiment basé sur le folklore et la mythologie japonaise. À voir, pourquoi pas, vers Jim Zub.
Avec des cheveux longs bien gras dans leurs yeux, quoi.
Ouais, ça y est, tout. Allez, encore du racisme.
Allez, mais Bruno, mais quel raciste, quoi, sérieux.
Non, on voulait sans ça.
La série sera dessinée par Steve Cummings.
C'est très joli. C'est propre en tout cas.
Et ça démarre, j'ai plus le mois de sortie par contre, je suis désolé.
C'est très bientôt, hein, puisque je me rappelle l'avoir commandé, donc je crois que c'est au mois d'août. Hein.
Ce mois-ci. Pour terminer nos brèves comics, une petite initiative très intéressante qui se passe sur Bleeding Cool, qui vous permet de lire, alors je ne sais pas jusqu'à quand ce sera disponible, le podcast sortira mardi 8 juillet, la sortie de ce comic en format papier c'est le 9 juillet, donc mercredi, il se peut que déjà dès mercredi ce ne soit plus disponible à partir du moment où la version papier existe. Il s'agit d'une prélecture pour ceux qui auront envie de découvrir la série Turok Dinosaur Hunter, qui sort donc chez Dynamite, ce revival des séries Gold Key, écrit par Greg Pak avec des dessins de Mirko Kolak. Le numéro 5 est lisible gratuitement sur le site de Bleeding Cool. Très bonne initiative pour booster peut-être un peu la visibilité de cette série.
Oui, je suis désolé de te reprendre, Steve, mais ce n'est pas une preview. Enfin, c'est pas le prochain, c'est celui qui est déjà sorti. Ils vont faire ça. Ils vont mettre le numéro d'avant, celui qui sort cette semaine.
Ah, autant pour moi. Bah, j'avais mal lu, pardon.
Le 5 est déjà sorti en fait. Mais par contre, c'est bien d'avoir pouvoir le lire gratuitement.
Moi, j'aurais rajouté.
Comment
même
ça, tu me reprends? D'où tu me reprends, toi?
Mais non, mais j'aurais même dit ta gueule, sale con, hein.
Oh bah oui, allons-y.
Si t'es trop, t'aurais été vite.
En tout cas, donc ce numéro 5, c'est le début d'un nouvel arc, ce qui peut donner envie justement de prendre
exactement
en cours la série.
N'est-ce pas, connard?
Et donc pour les éditeurs qui nous écouteraient peut-être et qui comprennent le français, Bleeding Cool encourage tous les éditeurs à les contacter si vous voulez poster du matos gratuit. Allez-y, contactez-les, pourquoi pas. Ouais. Non, je trouve que c'est une très très bonne initiative en tout cas.
Il y a aussi Stéphane Sejic qui a proposé les 25 premières pages de son prochain titre là qui sort cette semaine, dont j'ai oublié le nom, qui sort chez Image. Ce sera un numéro qui sera oversize, il fera une quarantaine de pages et il y a quand même déjà les 25 premières pages qui sont dispo. Donc voilà, ça devient de plus en plus courant effectivement.
Et oui, les comics c'est comme la drogue, la première dose est gratuite et le reste
tu payes.
À force, on aura 19 pages et la 20e sera payante.
Ouais, c'est ça en fait, c'est ça. C'est un bon plan. Le cliff Chang, évidemment.
Et oui. Parce que c'est la soirée de la vanne.
Oh, la question, la finalité, mais c'est vraiment le truc de l'enfer, quoi. Terminons avec la partie Comics.com. Les mails, comme on l'a déjà dit depuis plusieurs semaines, on les garde pour ce fameux Weekly News 100, ce gros Comics.com géant en direct vendredi 11 juillet, donc vendredi de cette semaine, à partir de 21h à peu près. Parce qu'on n'est jamais vraiment très à l'heure, mais bon, à peu près 21h, hein, soyez prêts, où on répondra aux mails, on les lira à l'antenne, on va y répondre, on prendra aussi vos questions sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux où vous pourrez commenter. On va essayer de répondre un maximum, essayer de faire une émission basée autour des auditeurs, un petit peu comme Jacques Martin le faisait à l'époque. Et oui, Jacques Martin, notre grand maître à tous, dont on ne parle pas assez.
C'est quoi ton papa?
mais c'est parti, Comics.com va revenir sur ce que j'ai honteusement oublié la semaine dernière lorsque nous avons parlé du Tipeee, la question de la semaine, question de la semaine qui est posée par Steph, comme chacun le sait, enfin en tout cas tous les lecteurs assidus de Comic City le savent, et c'est le début des questions de l'été. On va faire un petit programme spécial pour l'été avec un espèce de grand tournoi, et oui, comme les chevaliers du Zodiac.
Ouais, le Tenkaichi Budokai.
À tes souhaits, espèce de raciste va. Pardon. Donc un grand tournoi des super vilains chez Marvel et autres, pas que chez Marvel. C'est donc la première partie, ce sont les sélections. 7 vilains sont en lice. Il ne faut en garder que 2. Et oui, c'est la loi, c'est difficile, c'est injuste, mais c'est comme ça. Et puis ensuite, nous aurons des demi-finales et enfin la dernière phase, la phase finale, où les 6 derniers s'affronteront. Pour cette semaine, la première partie de cette question, vous proposez comme choix Apocalypse, le Caïd, donc le Kingpin, Bane, Ozymandias, le gouverneur de Walking Dead, évidemment, Zod et Sabretooth.
Ozymandias, c'est un méchant?
T'es un mec qui a jamais lu Watchmen, quoi.
Ah, mais moi, je voulais pas être spoilé, moi. Non, mais je plaisante, mais je pense qu'il y en aura qui, pour qui ce sera un spoiler, quoi.
En même temps, je veux dire, il y a un film, le truc est sorti depuis 20 ans, merde, quoi. Genre, au bout d'un moment,
il y a une voilà. Hein.
Le mec étant l'antagoniste, oui, il est considéré comme un vilain. C'est vrai que je me suis dit, vilain, bon. Mais oui, c'est l'antagoniste, donc considérons-le comme un vilain.
Vilain.
Messieurs, quelles sont vos réponses à cette question de la semaine?
Ah, oh, j'ai oublié, moi. Attends, tu me...
Apocalypse, Kingpin, Bane, Ozymandias, le gouverneur, Zod et Sabretooth. Tu as le droit à 2 choix.
Alors, moi, j'avais voté pour Apocalypse et pour le Cade.
Mm-hmm.
Voilà. Apocalypse, parce que je trouve que récemment, ça a été un des méchants qui m'a le plus intéressé dans la partie X-Men. Voilà, avec par exemple le run de Remender. Et puis le Caïd, parce que le mec s'en sort tout le temps, quoi. Et j'ai encore, c'est encore frais dans ma tête la dernière fois où il a réussi à s'en sortir face à Superior Spider-Man, où je me suis bien marré. Rappelez-vous de ce sosie qui vivait dans les dans les sous-sols de son immeuble. voilà, ça m'a bien fait marrer. Le Caïd, il est cool quand même.
Bah ouais, mais il se fait aussi quelquefois exploser la gueule, notamment par le Punisher dans le Punisher Max de Jason Aaron. Je sais pas si tu les as lus.
Punisher Max, non, c'est pas encore.
Ah, tu devrais.
C'est sur ma reading list.
C'est un petit bijou, quoi.
Il y a un autre que je t'ai sorti récemment.
Écoute, c'est difficile. Franchement, la question.
C'est difficile. Hein. C'est sûr que là, c'est chaud. Hein.
Moi, je mettrais quand même le gouverneur. C'est quand même un gros enculé. Je pense que c'est l'une des seules fois sur un comic book où je me suis dit, oh le bâtard, quand je disais ça. non, vraiment, le gouverneur, c'est vraiment un gros vilain. Et puis qui c'est que je pourrais mettre comme vraiment que je déteste? Peut-être le Caïd, justement, parce que finalement c'est peut-être les pires, ceux qui ont pas de pouvoir là, qui manipulent les gens, c'est peut-être quand même les pires. Donc voilà, ces deux là
pour ma part, j'ai choisi le Kingpin aussi, parce que je le trouve vraiment super classe, un vilain
le
qui
Kingpin
touche à tout
aussi.
Enfin, c'est un mec, il est hyper fat et c'est un champion de kung-fu.
Ouais, putain, le mec est super balèze, mais le pire, c'est que il envoie les autres faire le sale boulot à sa place, alors qu'il pourrait le faire lui-même.
Ah oui.
Mais finalement, c'est juste le chef de la mafia, quoi.
Mais c'est juste un énorme gros.
Putain, je vais entendre parler de ça. Et j'ai choisi Bane, parce que c'est comme le mec qui a brisé Batman.
Ouais.
Voilà. J'ai vraiment hésité entre Bane et Apocalypse. Mais je me suis dit, Apocalypse, hormis le run de Remender ces derniers temps, il a quand même été sacrément oublié et ne sert vraiment plus à grand chose.
Puis c'est pas vraiment Apocalypse dans le run de Remender, on pourrait aussi arguer là-dessus, hein. C'est une réincarnation. Le Apocalypse, c'est plutôt le gamin que tu vois dans le run, donc voilà. C'est.
Oui, c'est Genesis, oui.
Donc voilà.
Genesis.
Ouais,
bon, on s'est compris. Les résultats à l'heure actuelle, 141 votants, Apocalypse est en tête avec 40% des votes.
Ah oui.
Le Kingpin suit avec 31%, Bane à 25%, s'en suit Ozymandias 23%, le gouverneur 20%, Zod 9% et Sabretooth 6%, Sabretooth qui ne vraiment est à la traîne. Je pense pas qu'il arrivera à remonter.
Il y aura qu'un vainqueur là-dedans.
Il y en aura deux, parce qu'il y a deux réponses possibles. Ensuite, les 12 gagnants, puisqu'il va y avoir, je sais plus, il y aura 6 semaines, voilà. Donc, 6 semaines.
Il y a des huitièmes, il faut qu'il y ait 16 gagnants. Enfin, des huitièmes de finale, puis...
Il va y avoir 6 semaines comme ça avec deux choix. Ensuite, il y aura les demi-finales où on va diviser les 12 en deux groupes. Et voilà.
Le truc,
il y aura
le truc
les
pas du
3 premiers. Et ensuite, bah, tout est expliqué sur le site. Rendez-vous sur le site.
Voilà. Et ensuite, il y aura un tirage au sort avec une poule de 3 face à une poule de 5 qui affrontera ceux qui sont en rouge, bien sûr. Et nous avons les maillots bleus qui ont le droit d'avoir un joker multiplié par 5. Donc, sur leur point de vie, mais limité dans le temps quand même.
Après, je sais pas si Steph l'a sélectionné, mais moi, s'il y a Sam, je vote pour Sam.
Réponse dans les prochaines semaines, il faudrait être à l'affût.
Dans les super finales, mais il a rien à voir avec les comics, par contre.
Oh,
bah si, il les commente.
Il est détruit tellement que je pense qu'il sera à l'origine de la prochaine crise chez DC et Marvel. On termine très vite ce que je voulais répondre à un commentaire que nous avons reçu cet après-midi, un commentaire de Cobbs, oula, j'ai du mal, hein, il est temps que ça se termine, qui nous disait, notamment en rapport avec le Comics Weekly de la semaine dernière, où on parlait d'Original Sin, il dit « Je vous trouve bien gentil avec Original Sin numéro 5. D'un point de vue de lecture, c'est en effet intéressant, captivant, blablabla. Mais d'un point de vue de retcon, c'est du grand n'importe quoi. Je ne suis généralement pas contre ce genre de procédé, mais là, c'est le changement total pour un personnage plus qu'important. Cela veut donc dire que tout ce qu'on a lu est faux. Et dans ce cas, comment ce personnage peut-il avoir eu un enfant nouvellement introduit dans le Marvel Universe? Je pense qu'il aurait été mieux de créer un personnage remplissant ce rôle au lieu de le donner à un personnage connu et changer toute sa mythologie au passage. Il s'agit de Nick Fury. On va pas trop rentrer dans les détails pour éviter les gros spoils pour ceux qui n'auraient pas encore lu Original Sin numéro 5 mais qui écoutent cette émission.
Je pense pas que ça change les origines du personnage. Ça ajoute considérablement.
Ouais. C'est plus les activités qu'il faisait en plus, quoi, de ce qu'il faisait déjà.
Mais rétrospectivement, finalement, je suis plutôt d'accord avec Cobbs. Le problème est que le Nick Fury que l'on voit, vous avez bien vu le problème qu'il y a avec ce Nick Fury-là dans ce numéro 5 d'Original Sin. Comment a-t-il pu enfanter quelqu'un? Si on voit un Nick Fury jeune, c'est forcément LMD. Enfin, et comment un LMD peut enfanter? Enfin, ça paraît complètement étrange.
Attention. Je pense qu'il a perdu son pouvoir. Exactement. En fait.
C'est exactement. Dans un, comme dans, Captain America.
Après Fear Itself, je crois. Un truc
oui.
Comme ça, il a.
Oui, exactement, exactement.
Il a perdu
je pense que
la
c'est.
Infinity récemment.
C'est tout récent. C'est tout récent. Oui, oui. Moi, c'est ce que j'ai compris aussi. Il est pas devenu vieux. Enfin, il a pas vieilli toutes ces années. Il a juste vieilli récemment. Le Nick Fury tel que tu le voyais avant, c'était vraiment le vrai Nick Fury.
Moi, c'est comme ça que j'avais compris aussi.
Ben, moi aussi, je pensais l'avoir compris comme ça, mais c'est vrai que le commentaire de Cobbs me met un doute. J'essaierai de relire l'Original Sin 5, mais je me rappelle pas d'avoir vu quelque part mention que Nick Fury avait vieilli et a préféré Itself.
Ouais. C'est
enfin,
précisé.
Il me semble qu'il y a un souci avec la formule.
C'est précisé, en fait, je crois, dans le résumé au début. Et je pense que s'il le dit, c'est que justement pour bien qu'on comprenne que c'est nouveau quoi, son état de physique comme ça.
C'est vrai qu'il aurait peut-être été plus malin de créer un personnage ou en tout cas de donner ce rôle à un autre personnage parce que Nick Fury quoi.
Oui, non, enfin c'est sûr que bon voilà, mais c'est comme Wolverine quoi, tu vois, on a toujours rajouté des couches et des couches et des couches et on va sans doute en rajouter encore. Mais
et puis après, le fils de Wolverine, Pampers, c'est bien connu, quoi.
C'est peut-être lui, d'ailleurs, le nouveau Captain America, Nick Fury.
Ça pourrait, ça pourrait être ça. Bref.
Ah oui, c'est ça, c'est qu'il a utilisé son dernier sample d'Infinity Formula pour sauver Bucky, pendant l'Heroic Age.
Ah, effectivement, maintenant, oui. Maintenant que tu me le dis,
ça me revient. Il lui reste seulement des traces de la formule dans son corps, donc peut-être, effectivement, que du coup, c'est moins efficace.
Oui, parce que Fury faisait partie des seuls à savoir que Winter Soldier était toujours en vie.
Ce qui est quand même énorme, c'est que Bucky le remercie bien dans Original Sin.
Tiens, merci pour le cadeau.
Ouais, voilà, merci de m'avoir sauvé la vie, tiens.
En tout cas, voilà, cette émission s'achève. On se retrouve vendredi pour cet énorme live, le Weekly News 100. 100 Weekly News, 200 Comics Weekly.
Et encore un live. Encore un live. Donc.
Ouais, mais ça va être cool. Bah, j'espère.
Est-ce qu'on sait qui sera là?
Eh bien non. Ce sera la surprise.
Surprise.
Ah ah.
Surprise.
L'émission se termine pas quoi. Bon. Il aurait peut-être fallu couper avant. En tout cas, vous pouvez toujours nous envoyer vos mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. On a déjà reçu plein de mails, mais continuez à nous abreuver de mails, vraiment, avec toutes les questions que vous avez envie de nous poser.
Est-ce que tu sais combien de mails on a là concrètement?
Je dirais une douzaine. Ouais. J'ai pas refait le compte, mais une bonne douzaine, quoi.
Ouais, donc ça fait quand même des choses à lire et à répondre vendredi.
Mais n'hésitez pas à continuer de nous en envoyer, hein, si vous avez des questions, vraiment. podcast@comiccity.fr pour tous vos mails qu'on lira à l'antenne. Et puis, bien sûr, vous pourrez nous poser des questions en direct, évidemment, sur Twitter, sur les commentaires YouTube, sur les commentaires Facebook de la page Comic City, sur le site. Voilà, on va essayer de répondre à un maximum de gens. Mm. Et si vous appelez pas Jean, c'est pas grave. Voilà, il en fallait bien une petite merdique hein, pour terminer cette émission.
Il n'y en avait pas eu, hein, de toute façon, jusque-là.
Non, c'est vrai qu'on n'avait pas fait beaucoup de vannes pourries dans cette émission. Ouais. On vous remercie vraiment de votre fidélité. On se retrouve donc vendredi soir pour le live. Vous aurez samedi matin votre Comics Weekly, évidemment, car chez nous, les podcasts ne s'arrêtent jamais. C'est bien connu. J'ai essayé de trouver une vanne, mais ça vient pas. D'ici là, vous nous retrouvez sur Facebook, sur Twitter, et puis bien sûr sur le site où vous retrouvez tous les articles. Point.
Point final. Voilà.
Et on remercie tous les tipeurs aussi.
Oui.
Qui ont été, qui nous ont surpris. Et voilà, et c'est au-delà de nos espérances. Donc merci à tous.
On va leur faire carrément une ode pendant le live justement.
Et oui, c'est vrai. Merci vraiment à vous de nous soutenir sur Tipeee. Promis, on va bien utiliser cet argent en pute.
Voilà.
évidemment que non. Ce sera en cocaïne. Allez, à la semaine prochaine. Enfin non, pas à la semaine prochaine, à vendredi soir.
À bientôt, à très bientôt.
Et portez-vous très très bien.
Ouais, ciao ciao. I step forward, you step back. I play my cards, you retract. Oh, am I gonna clean up the mess? All I've got is a whole lot in chest. Do you mind when I move around? Up in the front, but just for the taste.